Ça te dirait de voir Backseat jusqu'en 2027, 2040 même? Eh ben c'est possible, mais pour ça on a besoin de toi. Backseat, c'est une émission qui tient à son indépendance, c'est pourquoi nous avons choisi de faire reposer une partie du financement de l'émission sur notre public. Chaque épisode coûte 13 000 euros, ce qui comprend toute la logistique, mais surtout les salaires de chaque personne intervenant sur l'émission. Pour pouvoir diffuser toute l'année, nous avons besoin de 30 000 euros par mois. Alors rends-toi sur KissKissBankBank, choisis l'abonnement que tu préfères et profite des contreparties que nous proposons en échange, comme le fait de voir l'émission en intégralité sur YouTube dès le vendredi matin, ou l'adhésion au Club Backseat, qui donne accès à plein d'avantages. Si chaque spectateur régulier donnait 1 euro par mois, nous pourrions produire Backseat pendant de nombreuses années. Alors rendez-vous sur KissKiss pour soutenir cette belle émission. Et tout de suite, ta VOD.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir! Bonsoir le public! Merci à toutes et à tous d'être là! Bonsoir tout le monde, bienvenue! C'est la dernière émission Backseat de cette saison, chers amis. Merci du fond du cœur. Grâce à vous, on a pu faire une saison complète et grâce à vous, on a même pu faire 3 émissions supplémentaires grâce à vos dons, à vos abonnements sur KissKissBankBank. Merci du fond du cœur. Ce soir, on a beaucoup de choses à dire et je ne suis pas seul. Je suis avec des merveilleuses et merveilleux chroniqueuses et chroniqueurs. On est avec Safia, mesdames et messieurs. Incroyable. Safia, tu es militante antiraciste à la Riposte antiraciste. Est-ce que tu vas bien ?
Je vais très bien, merci. Et toi, Jean ?
Bah, ça va super. Je suis content de te retrouver sur ce plateau pour cette dernière. Merci d'être avec nous. On est également avec Léa, mesdames et messieurs. Léa, tu es la fondatrice du média Popol. Non, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, je pensais que pour la dernière, t'allais pas regarder tes notes et t'as failli les regarder.
Je voulais être sûr que j'oubliais pas un truc.
Non, c'est bon.
Non, c'est bon. C'est ça, Léa. Oui, c'est ça.
Oui, c'est
Léa,
ça.
Oui, c'est ça. Ouais, Léa, Popol, Léa. Oui, c'est ça. C'est bon, je reconnecte.
Comment ça va, Jean?
Bah, ça va très très bien, écoute. Très heureux, j'ai pu me doucher, c'est bon, j'ai de l'eau. Ah. J'ai de l'eau chez moi, tout va bien.
C'était la réponse qu'elle voulait obtenir.
Ça faisait quand même 2 semaines.
C'est ce que vous voulez savoir, ça commençait à fouetter. On est également avec Malek, mesdames et messieurs. Malek, tu es conseiller en communication politique et créateur du podcast Autour de moi.
Ouais.
T'es toujours conseiller en communication politique ou t'arrêtes là ?
On va le savoir dans les prochains jours.
Pourquoi ?
On verra. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Tout le monde, alors toute l'équipe, depuis que je suis arrivé, toute l'équipe m'a demandé si j'ai dormi cette nuit. Apparemment, ça se voit à ma tronche et ça me fait un peu peur.
Non, ça va.
Non, ça va quand même.
C'est juste que ça nous est arrivé 2-3 fois que tu viennes sur le plateau de Backseat après une nuit blanche.
Bah, c'est vrai que la nuit dernière a été une nuit blanche, mais c'est ok, tout va bien. Tout va très bien.
Non, mais voilà. Non, mais t'es toujours au top, hein. Y a pas de problème.
Merci. C'est pas le plus problème. Important. Je suis archi content de vous retrouver.
Mais on est très content d'être avec toi, Emilien. Merci, Malek.
Waouh. Je peux m'appeler Emilien aussi.
Vas-y, lis tes notes.
Non, mais c'est la dernière. C'est la dernière. C'est bon, on lâche tout. On est avec Emilien, mesdames et messieurs. Emilien, tu es doctorant et enseignant en sciences politiques.
C'est vrai.
Et ça fait plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau.
Ben, je suis fort plaisé d'être ici.
Oui.
C'est
une fin d'année. J'espère que tu vas bien décrypter ce soir.
Oula, oui.
Oula, on a besoin de toi.
Oh là là.
On va avoir besoin de toi. Mesdames et messieurs, il y a 2 jours, nous avons connu une élection, une fin d'élection législative. Il était 20h lorsqu'on a appris les résultats de l'élection législative. On va faire un tour de table. Je veux que vous me disiez où est-ce que vous étiez et comment vous l'avez vécu ce moment à 20h pile. Malek, on commence avec toi.
Alors, la veille, c'était un peu la descente aux enfers. J'étais en train de me dire, Malek, jour de déni, j'étais à un festival et on était tous dans un truc de « Venez, on oublie ce qui se passe à l'extérieur. Demain, l'extrême droite va peut-être arriver en tête.
Ouais. »
Et venez, on oublie. Moi, du coup, dimanche, je n'ai pas voté vu que dans ma circo, l'élection n'était plus au premier tour. J'ai rejoint plein de copains et des journalistes, notamment à la rotonde où il y avait la soirée électorale de la France Insoumise. Et voilà qu'à 18h36, 37, il y a un journaliste qui dit « Ah, moi j'ai une estimation qui est un peu différente de ce qu'on avait attendu. »
Ça, c'est Malek devant la Rotonde à Paris, qui était le lieu où la France Insoumise organisait sa soirée électorale.
Et donc là, tout le monde le prend pour un fou, il faut dire les choses.
Ouais.
Même les attachés de presse de la France Insoumise ont pris ce journaliste pour un grand tarif. puis deuxième estimation, puis troisième estimation. Et alors, quand on a vu que l'estimation de CNews donnait le même ordre, bah, on a plus ou moins compris que c'était ça. Et là, stupeur, surprise, soulagement, comme un poids qui s'est retiré. Parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, dans la chair de beaucoup de gens, de minorités notamment, des personnes les plus fragiles, c'était une peur folle. Et voilà, et après des bisous et des câlins avec des gens que je ne connaissais pas. Et c'est fou parce que en tant que militant de gauche, ça faisait bien longtemps que j'avais pas vécu ça.
Une victoire de la gauche ?
Bah ouais.
C'était quoi la dernière fois ? C'était Hollande 2012.
Si j'oublie les élections locales, bah mec, 2012 quoi.
Ouais, 2012 Hollande, ouais. Non, mais c'est vrai.
Ça fait longtemps.
C'est vrai que ça fait longtemps que la gauche n'avait pas ressenti ça, effectivement. Et bah écoute, ok, on reviendra tout à l'heure. Évidemment, vous doutez bien, on va faire une émission spéciale d'analyse de ces résultats parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Léa, toi, t'étais où ?
Moi, j'étais au point éphémère, donc pas très loin de là où était Malek. Mais moi, j'ai organisé une contre-soirée électorale.
Ouais.
Parce que pourquoi pas, après tout. Et c'était chouette, il y avait plus de 200 personnes. Et moi, j'étais persuadée qu'on allait y arriver. Donc là, c'est ma petite sœur et moi. On s'embrasse.
Oh.
Voilà. Et grand soulagement aussi pour beaucoup de personnes autour de moi, notamment des membres de ma famille, très proches, etc. Donc c'était... Moi, j'étais persuadée que la gauche allait remporter ces élections. Je sais pas pourquoi. Je pense que je vais me lancer. Je vais bientôt faire un truc genre tirer les cartes ou
la voyance.
J'en aurais besoin parce que moi, mes pronostics sont nuls. Donc,
d'habitude, moi, ils sont nuls à chier. Et là, franchement, j'étais plutôt sereine. J'ai vu les premiers sondages. Alors, j'ai vu le premier sondage Ipsos version syndicat et le deuxième sondage Ipsos version police, qui était vraiment mais totalement différent. Et j'étais là, non, mais de toute façon, le RN va pas être en tête, c'est sûr. Enfin, et puis quand effectivement les résultats ont été finalement annoncés après qu'on a eu ces fuites des sondeurs, c'était un énorme soulagement, mais un énorme soulagement. Enfin, moi, dans la salle, il y avait la majeure partie des gens qui y croyaient pas du tout. Beaucoup de gens ont pleuré. C'était super émouvant et tout de suite, bien entendu, on était là pour une table ronde avec Réjeanne Sénac et Estelle Janjo de la JAR. Pour parler justement de comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on fait, parce que on n'a pas endigué pour autant la puissance de l'extrême droite, mais c'est pas parce que on est content qu'on est débile, quoi. Donc on était content, mais on a bien compris qu'effectivement tout n'est pas gagné et qu'il va falloir continuer en fait toute cette mobilisation, tout ce taf qui a été fait ces dernières semaines, qu'il faut rien lâcher. Et mais ça a été un très très grand soulagement.
Émilien, toi t'étais où ? Comment tu l'as vécu ?
En toute simplicité, je suis dans la rédaction de Mediapart. et donc, à 18h50, c'était encore ambiance moyenne parce qu'on avait tous les faux sondages qui donnaient le RN, à peu près comme ce qu'indiquaient les instituts, voire même, je crois que le max qu'on a eu, c'est 260. Et puis, à un moment donné, un chercheur que je ne nommerai pas pour respect de ses sources a dit « Ah, j'ai un vrai sondage, confirmé tout ça Ipsos, littéralement, je ne sais pas, le directeur Ipsos a signé avec son sang sur le truc, donc c'est officiel. » Et donc, on voit commencer les trucs, on se dit « C'est pas normal, ça, la gauche et tout, bizarre. » Et en fait, il s'est confirmé que si la gauche, donc Mediapart, ambiance n'était pas mauvaise, hein. pendant que t'attendais pour passer sur le plateau, il y avait des cris de joie à l'annonce de l'élimination de certains macronistes, c'est vraiment honteux. Donc voilà, ambiance sympa. Ils avaient un très bon cake chocolat poire. Enfin, voilà, une bonne soirée.
Ok, d'accord. Safia, tu étais à Marseille, toi ?
Tout à fait. J'étais à Marseille, dans cette ville absolument génialissime. Et alors, du coup, quand les résultats sont tombés, moi, j'étais dans la rue en train de marcher. Et là, on entend des cris. Des cris. Et alors là, avec plein de potes, on était en mode « des cris parce que c'est le RN ou des cris parce que c'est le LFP ?»
À Marseille, on sait jamais, ouais.
et en fait, là, on voit des voitures qui commencent à klaxonner.
Ah, ça,
et
c'est pas fait, très RN, ça.
L'ambiance de match de foot, en fait, commence à arriver. Et en fait, on arrive sur la place, peut-être que vous connaissez à Marseille, la grande place Jean Jaurès, qui est la plaine. Et là, ça commence à être une ambiance très très festive. Et en fait, la joie et l'enthousiasme sont extrêmement légitimes. Moi, je l'ai ressenti très profondément. Et l'ambiance était particulière parce que... et alors voilà, ça, c'est typiquement Marseille. C'est-à-dire que nous sommes innovants. Parfois un peu schlagos, mais toujours innovant. Je sais pas si on a vu la photo des ultras qui est passée. Ouais. Alors, faut savoir qu'à Marseille, l'ambiance, elle était surtout très antifasciste. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai bien aimé à Marseille, c'est que il y avait une atmosphère de soulagement plus qu'une atmosphère de victoire, et les gens, j'avais l'impression, avaient très très conscience en fait du besoin d'une avancée antifasciste. Et en fait, les ultras que vous avez vus, en fait, ont fêté les 30 ans de leur club, mais en ont profité pour chanter des slogans avec nous, des slogans antifascistes que je ne citerai pas parce que c'est un petit peu vulgaire, voilà, mais que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, il y avait un grand rassemblement au Vieux-Port, il y avait un grand rassemblement dans le centre-ville, les gens marchaient partout, et en fait, on entendait des discussions, beaucoup, beaucoup de discussions. Ce qui était super intéressant, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, de cet enthousiasme, c'est surtout, j'ai l'impression, une dynamique de politisation qui ressort.
Totalement.
Beaucoup de jeunes qui sont politisés, mais aussi beaucoup de darons qui sont politisés. Et en fait, je pense que de cet élan, il faut que surgissent en fait des discussions stratégiques et politiques sur comment combattre l'extrême droite politiquement, plus qu'électoralement, et surtout, bah, comment on va faire pour obtenir de réelles avancées sociales dans un contexte qui est super dur, quoi.
Et je me permets de préciser, vas-y. Là c'est le supporter de l'OM qui va parler, mais Safia a raison de rappeler que l'antifascisme et l'antiracisme, c'est dans la culture pure des groupes de supporters de l'Olympique de Marseille, le Commando Ultra, les South Spinners, les MTP, et c'est pour ça que le fait qu'il y ait eu ces célébrations qu'à Marseille de cette manière, bah c'est la suite logique.
C'est Marseille.
C'est Marseille, son folklore incroyable. Non mais ok, très bien. Alors moi j'étais en stream.
Je vais te faire un coucou juste avant.
T'es venu me faire un coucou, ça m'a fait super plaisir. J'étais en stream devant toute la France et alors ce coup-ci, j'avais pas reçu d'informations en amont. D'habitude, c'est Adèle qui m'envoie des textos avec des infos croustillantes, des sondages pas encore sortis, etc. Là, Adèle, elle m'a oublié ce soir-là. Donc j'étais à poil et surtout, moi, j'avais préparé. Non, j'avais des vêtements. Commencez pas.
Drôle de stream.
Autre ambiance.
On juge pas.
Non, mais j'avais mis un pantalon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non,
cette
mais
fois.
J'avais pas d'informations en amont et surtout, moi, je m'étais préparé à faire un stream avec un rassemblement national avec une majorité relative qui allait gouverner le pays. Et je m'apprêtais à devoir expliquer que peut faire l'opposition à l'Assemblée face à un gouvernement. Enfin, je m'étais un peu préparé à ça. Et à 20h, le moment où le truc pop, je bug complètement. Vraiment, je suis en mode, mais what? Sérieux? Mais attends, mais c'est le bordel, mais c'est un blocage complet. Parce que du coup, c'était ma deuxième hypothèse, c'était un blocage institutionnel complet. Et du coup, je pars dans l'idée qu'en fait, c'est bloqué. Cette Assemblée nationale est bloquée, elle ne peut pas travailler. Et là, Jean-Luc Mélenchon prend la parole et dit « On a gagné, on va appliquer tout le programme, t'inquiète. » Je suis en mode « Mais non !» En fait, parce que tu n'as pas les moyens politiques de le faire. Regarde l'Assemblée, on n'a pas vu la même, c'est chelou. Donc voilà, non, toute la soirée était un peu comme ça. Et puis après, on a continué le stream jusqu'à tard.
Donc tu étais déçu du résultat, Jean ?
Non, j'étais pas déçu du résultat, j'étais surpris. Non, j'étais super soulagé, évidemment, que le RN soit pas au pouvoir. Mais je m'attendais pas à ce que la balle arrive dans le camp du NFP comme elle l'est aujourd'hui. La balle est dans le camp du NFP à bien des égards et elle est aussi dans le camp de Macron. On va en parler.
Dans le camp de Macron aussi.
Eh ben, il a pas tout à fait disparu. Et on va en parler dans l'actualité de la semaine. C'est parti pour l'actu de la semaine. Allez, l'actualité cette semaine, évidemment, donc c'est cette composition de l'Assemblée nationale. Je pense qu'on peut l'afficher tout de suite. Hein. C'est le camembert, celui qu'on attendait, l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui est divisé en trois tiers avec un nouveau Front populaire à 182 députés. Ensemble, donc les macronistes à 168 députés. La droite, les républicains à 46 députés et l'extrême droite qui s'en sort à je sais plus combien.
142, je crois.
142, ouais. LR Ciottiste inclus.
À
droite.
Beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements à tirer de cette élection. On va en parler. D'abord, il y a eu des choses qui se sont passées dans des circonscriptions très particulières. Je crois que vous vouliez en parler. Safia, toi, tu voulais nous parler justement du sud de la France, autour de Marseille.
Tout à fait. Alors, le sud de la France, en fait. Tout le pourtour méditerranéen.
Je crois qu'on a l'image. Hein.
Exactement. Vous voyez, tout ce que vous voyez en marron, ce sont les circonscriptions gagnées par le Rassemblement national. Donc tout le pourtour méditerranéen est acquis au Rassemblement national, à l'exception de grandes villes. Donc on a Avignon, notamment avec la victoire de Raphaël Arnaud
ouais.
Que je salue chaleureusement. Et ensuite, on a Marseille un petit peu, voilà, ces environs-là. Mais moi, je voulais vous en parler parce qu'en fait, j'ai vu notamment des choses passer sur Twitter. C'est la Côte d'Azur, tout ça, c'est un peu notre Floride à nous. C'est les petits bourgeois avec un teint orange qui ont voté Rassemblement National.
C'est les vieux, ouais.
Les amis, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, effectivement, on a dans le pourtour méditerranéen toute une petite bourgeoisie raciste qui a voté Rassemblement National. Vous savez, cette alliance ciotiste, les Républicains, Rassemblement National. Mais la réalité, c'est qu'à Marseille, trois circonscriptions sur sept ont été gagnées portée par le Rassemblement National. Et ensuite, on a d'énormes bastions ouvriers comme la ville de Martigues qui est autour de l'étang de Berre. C'est là où il y a toutes les raffineries, toutes les usines, tout. Ville acquise au Rassemblement National. Donc en fait, c'est plus compliqué que ça. Et en fait, moi, ça me fait prendre conscience de quelque chose. C'est qu'en fait, parmi ces victoires du RN, il y a évidemment des classes populaires qui ont voté pour le Rassemblement National. Et qu'aujourd'hui, s'il y a une victoire électorale du Nouveau Front Populaire, la réalité, c'est que le Nouveau Front Populaire, que ce soit l'approche traditionnelle de gauche qui dit, voilà, tous les électeurs RN, de toute façon, c'est foutu, c'est tous des racistes. Ou alors que ce soit l'approche Ruffin qui nous dit, de toute façon, faut pas parler anti-racisme. Ou que ce soit l'approche d'Olivier Faure qui est en train de nous dire il faut entendre l'électorat RN et dans ce cas-là, il faut plus de police, plus de sécurité, les immigrés, bon, ceci, cela. En fait, tout ça, ça ne marche pas, d'accord ? C'est pas comme ça qu'on unit les classes populaires. Et je crois que face à cela, va falloir vraiment se poser des questions. Comment unir les classes populaires ? Et là, je crois que les syndicats vont avoir un énorme rôle. Ils ont été très présents là dans la dynamique électorale de ces derniers temps. J'espère que là, ils vont prendre leurs responsabilités pour sortir de la dynamique électorale et avoir une dynamique politique sur le terrain et sur les lieux de travail, parce qu'en tout cas, ce qui s'est passé à Martigues et à Marseille m'a brisé le cœur.
Effectivement, on a vu donc que le Rassemblement National est très solide dans le sud de la France. On le savait déjà, hein, c'était déjà des bastions pour eux. Ils sont aussi solides dans le nord et l'est. Le Rassemblement National n'a pas réussi à percer dans des régions comme la Bretagne, par exemple, qui résiste énormément à l'extrême droite depuis assez longtemps. Émilien, tu voulais nous parler de circonscription aussi. On sait que tu as une passion, toi.
Pour un certain parti, oui, les Républicains, parce que finalement, là, tu as pris les chiffres officiels honteux qui ne mettent pas tous les Républicains dans les Républicains.
Ah.
Or, c'est bien qu'ils soient bien dans eux-mêmes. Et donc, ils sont en fait 55. On verra après la constitution des groupes précisément. Mais 55, c'est-à-dire à peine moins que la précédente législature. Et alors, évidemment, ils ont beaucoup pâti dans des endroits où le RN a un peu tout raflé. L'Oise, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, tout ça. Mais ils ont aussi gagné quelques circos, ils ont même volé une circonscription dans l'Oise, dans le Loiret, au RN, et en fait, grâce aux accords avec la Macronie, sous les triangulaires, ils ont piqué un certain nombre de circonscriptions en Ile-de-France, deux dans les Hauts-de-Seine, deux dans le Val-de-Marne. Bon, c'est notamment LR Horizon qui a battu notre ancien invité Elias Loufoque. Ainsi que Vincent Jeanbrun qui a battu Rachel Keke.
Oui.
Voilà. Et ce qui montre que c'est essentiellement des sortants, mais que bon, dans des zones en fait très rurales, très bon, qui sont un peu les derniers bastions des Républicains, l'Orne, le Sud Massif Central, la Haute-Savoie, la Savoie, bon bah il y a un peu de résistance. On me dit on s'en fout, mais certes, mais c'est quand même peut-être eux qui vont constituer leur peut-être pas une minorité pivot ou quoi que ce soit, plutôt une minorité de blocage éventuellement, mais voilà, ils compteront, c'est quand même 55 personnes, c'est à peu près un dixième de l'Assemblée nationale, et en face, il y aura à peu près une grosse quinzaine de ciotistes qui ont été élus. Ils n'ont pas fait des scores extraordinaires, il n'y a que 24% d'entre eux qui ont été élus, mais voilà, il a quand même réussi à constituer son petit groupe.
Qui s'appelle
les Républicains à droite, composés à leur serre de petits élus.
À droite, point d'exclamation.
Ouais, c'est ce
il y a
que j'ai
plein.
Vu.
Bon, en tout cas, ils sont bien à droite.
Il y a le point d'exclamation.
Voilà, mais le point d'exclamation change tout, c'est beaucoup plus engageant. Et il y a beaucoup, notamment dans ce groupe-là, d'anciens soutiens d'Éric Zemmour. On a même quelqu'un qui donnait des cours dans l'Institut de Marion Maréchal. Donc, bon, bonne ambiance dans ce groupe-là. Globalement, je leur souhaite. Voilà.
Ça va être très, très intéressant à suivre, en tout cas. Léa, tu voulais parler, je crois, des reports de vote.
Ouais.
Des reports de voix, parce que
ouais,
c'était vraiment un peu l'enjeu de cet entre-deux-tours. Qui se mobiliser dans ce Front populaire ? Qui vote quoi ?
Et oui. On a un petit graphique aussi, normalement, du journal Le Parisien.
Voilà. Il est un peu dur à lire, ce graphique, je trouve.
Non.
Explique-nous.
Focus bugué. Un peu.
Bougez pas. C'est simple.
C'est pas prévu. Je pense qu'ils vont rester là.
Je vais pas le regarder parce que sinon je vais bugger. Donc, en gros, la question se posait de savoir comment le front républicain avait fonctionné et surtout qui avait vraiment joué le jeu des électoristes des différents camps politiques, notamment dans le cadre des désistements qu'il y a eu. Je vous rappelle qu'il y a eu 406 triangulaires et que, in fine, il n'y en avait qu'une 90 de mémoire. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de désistements pour
89.
Effectivement. Pardon ?
89. S'il te plaît.
Non, mais c'est important la précision, tu as raison. Donc il y en a eu 89 au final. Et donc de fait, les électeurs et électrices étaient... alors, bon, il faut rappeler quand même que Bruno Le Maire avait dit « il faut voter blanc », que Édouard Philippe avait été mi-cool aussi sur l'affaire en disant que... certes, il fallait se désister face au RN, mais qu'il fallait surtout pas voter les filles. Donc, Et donc, au total, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, les électrices qui ont le plus joué le jeu du Front républicain, c'est les électrices du Front populaire qui ont, eux, massivement voté pour des candidats et candidates
macronistes
au second tour. Comme vous le voyez, 72% contre 54% des électoristes d'ensemble qui ont voté pour des candidats et candidates du Nouveau Front Populaire.
Donc 1 sur 2.
Voilà. Donc je trouvais que c'était quand même assez intéressant et on en parlait pas mal aussi, on en avait parlé la semaine dernière sur l'émission en disant que finalement ce front républicain est porté par le peuple et par un véritable front populaire au sens propre du terme et ça se vérifie effectivement sur les reports de voix, donc c'était quand même assez intéressant. Et on en parlait aussi, Jean, t'en parlais toi la semaine dernière en disant que finalement c'est la preuve que les gens de droite, de manière générale, ont quand même pas trop l'habitude de faire barrage, quoi. C'est pas non. À eux qui on demande de faire barrage depuis des années, des décennies.
C'est nouveau pour eux.
Il y en a quand même un paquet qui ont joué le jeu, il faut le reconnaître, et sinon on n'en serait pas là. Mais il y en a quand même aussi un certain nombre qui ont moins joué le jeu que les électoristes de gauche. Voilà.
C'est vrai que ce barrage, il avait été appelé très timidement par les leaders de la Macronie. Et,
moins de le dire.
Tu vois, moi, il y a des petits effets, comme par exemple les échanges sur les groupes familiaux WhatsApp, où les jeunes remontent les bretelles des vieux en leur disant qu'il ne faut pas déconner. Je pense que ce genre de truc a pu jouer. Sur des électeurs macronistes en leur disant non mais c'est bon là maintenant faut faire barrage, arrêtez de chouiner sur Mélenchon, je l'aime pas, enfin c'est plus l'enjeu, c'est plus le sujet.
Je me permets un tout petit chiffre, il est resté dans ces triangulaires donc ont été maintenus 11 où le RN est arrivé en tête. La plupart du temps c'est un macroniste qui ne sait pas exister ou un petit coquin des Républicains et il se trouve que parmi ces 10 ces 11 circonscriptions, bon, dont celle de Béziers qui est un peu spéciale parce que bon je suis entre Ménard et RN, bon bah, soit eh bien il y en a 10 qui ont été emportés par le RN. Donc vraisemblablement, s'il n'y avait pas eu ces 200 désistements, il y aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de RN.
Désistements dont j'ai beaucoup entendu aussi, enfin, j'ai beaucoup lu sur le chat parfois des gens qui trouvaient que c'était antidémocratique, le principe des désistements. Ça supprime du vote des options possibles pour les électeurs, etc. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là.
Non, mais dans ces cas-là, il faudrait tous les candidats aux deux tours, c'est débile.
Bah oui,
ça n'a pas de sens.
C'est le principe d'un second tour. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais le fait du désistement, c'est que la personne volontairement se désiste, alors qu'à la présidentielle, il n'y a pas de désistement. C'est les deux personnes arrivées en tête, tu vois.
Mais parce que c'est pas les mêmes règles, c'est pas les
mêmes. Non, c'est pas les mêmes règles, je suis d'accord.
Même scrutin.
Non, je suis complètement d'accord. Toi, Malek, est-ce qu'il y a des circonscriptions en particulier que tu as suivies de près?
Non, par contre, il y a des territoires, enfin la Bretagne notamment, où tu sais le Rassemblement National avait dit la digue va tomber aussi en Bretagne.
Ouais.
Et les Bretons ont résisté, merci à eux. Et c'est vraiment des petites choses aussi qui, en fait, je pense que ça aurait pu dire quelque chose sur l'avenir aussi du pays, tu vois. C'est des territoires entiers qui ont toujours fait barrage, à les céder. Et ok, je vois qu'il y a des Bretons dans le chat.
Let's go les Bretons dans le chat. Toujours là les bros.
Non, pas de circo. Mais sur ce que tu dis là, sur le front républicain, mais qui en réalité s'est révélé presque un front anti-facho, tu vois.
Ouais.
Merci encore une fois au Front Populaire. Et pour le coup, c'est... Je vais encore citer Jean-Luc Mélenchon. Putain, vraiment, je tombe malade en ce moment. Merci aux jeunes électeurs et aux quartiers populaires. Parce qu'encore une fois, c'est eux qui ont sauvé le cul de tout le monde et le cul de la République, pour le coup.
Et ouais.
Pour parler vulgairement.
Et puis merci à la mobilisation de Zinzin aussi, quoi.
Aussi.
Ouais, la mobilisation a été
dingue. Ouf, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est
aussi.
Vrai.
Et ça, comme
non, mais rappelez-vous.
Tout à l'heure, Safia, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on capitalise, en fait. Et c'est ces personnes qui se sont mobilisées pendant cet entre-deux tours, qui ont vraiment joué le jeu et qui nous ont permis d'éviter le pire, il faut savoir aussi les embarquer dans un nouveau projet politique.
Excuse-moi, je suis d'accord. Sophie Binet avait dit à l'entre-deux tours que la CGT était prête à organiser la résistance. Il y a eu ces rassemblements donc avec les médias indépendants. On avait vu la vidéo la semaine dernière. On avait déjà prévu, au cas où le RN était arrivé en tête, de faire déjà une mobilisation dès cette semaine pour commencer la résistance. Bah venez les gars, on continue de faire des trucs. On continue de se voir.
Bien sûr.
Associations, syndicats,
bien sûr.
Médias indépendants.
Parce qu'il faut qu'on sorte d'un effet de réveil où c'est seulement pendant les périodes électorales.
Et c'est ce que disait Usul la semaine dernière, il y a une génération qui s'est mobilisée dans ce front républicain et qu'il va falloir acculturer à la mobilisation sur le temps long. pas forcément partisane, parce qu'on sait que les partis politiques, les gens les aiment pas, les jeunes, etc.
Elle est pas forcément nécessaire.
Mais elle est pas forcément nécessaire. Il y a d'autres manières de, il y a d'autres manières de le faire et tout. Puisque tu as parlé de Bretagne, je précise que le Mont-Saint-Michel a voté pour Ensemble.
Je ne vois pas le rapport.
Non, c'est juste
géographiquement.
Géographiquement, c'est évident.
C'est comme Nantes.
Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire, Safia, tu voulais nous parler d'outre-mer aussi.
Oui, etc. Oui. Autre circo dont je voulais vous parler, c'est les outre-mer. Pourquoi alors? Effectivement, si vous avez regardé, les premiers résultats, notamment premier et second tour, sont tombés, notamment pour les Antilles. Les Antilles, pour le coup, ont fait le taf, un vote majoritairement gauche, centre-gauche, mais en fait, les territoires, notamment aux Antilles, ont développé un anti-macronisme extrêmement fort à cause du non-lieu qu'il y a eu sur le scandale du chlordécone. Vous savez, le pesticide qui a pollué les gens, les enfants, les terres, etc. Quand il y a eu les mobilisations contre le Covid-19, ils se sont pris le RAID et le GIGN dans la tête. Donc en fait, au premier tour présidentiel, ils avaient voté Mélenchon. Second tour, Le Pen part carrément anti-macronisme. Autre ambiance. Donc là, on va dire, les territoires sont restés à gauche aux Antilles pendant les législatives, mais autre ambiance à Mayotte et à La Réunion, parce que, en fait, pour la première fois de l'histoire, le Rassemblement national a des députés ultramarins. Ouais. Un député à Mayotte, un député à La Réunion. Et pourquoi? Il faut se rendre compte de l'adaptabilité, de la volatilité du discours Rassemblement national quand ils vont s'adresser aux Outre-mer. Quand ils vont à Mayotte, là, le problème, c'est plus comme nous en France hexagonale, c'est plus l'islam, les étrangers, etc. Là, ça devient le Comorien. Le Comorien, le Comorien, le Comorien. Quand ils vont à La Réunion, vous savez, le problème, c'est quoi? C'est les Mahorais, les Mahorais, les Mahorais, c'est-à-dire les habitants de Mayotte. Ouais, je vois que vous froncez des sourcils, mais c'est ça le Rassemblement national. Mmh. C'est à chaque fois, dans le territoire, s'immiscer dans les fractures pour trouver le bouc émissaire. Et donc voilà, je crois que c'est très important de rappeler que ce qui est dramatique dans ce contexte-là, c'est d'avoir une percée du Rassemblement national dans les Outre-mer. Et à Mayotte, moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est quand même... Plus que l'échec, la manière dont la stratégie Darmanin avec l'opération Mambouchou et la stigmatisation des Comoriens a ouvert la voie au Rassemblement national jusqu'à obtenir un député Rassemblement national à Mayotte.
Le Rassemblement national qui n'a pas disparu, loin de là, il arrive en force à l'Assemblée nationale avec 143 sièges. Il est le premier groupe politique à l'Assemblée nationale en nombre de députés. Non, il est le deuxième, pardon, parce qu'il y a Ensemble qui est devant. Ils étaient encore en train de compter leur troupe.
Enfin, Ensemble, c'est pas un groupe.
Ouais,
ah, c'est vrai, c'est une
Renaissance,
c'est
son sang.
Non, c'est ça, Renaissance,
c'est vraiment le premier groupe.
Donc oui, tu as raison, le RN est bien le premier groupe.
Ils comptent les LRN, là.
Non, mais ils sont 127 quand même.
Et le RN a obtenu 10 millions de voix au second tour de ces élections. Donc ça reste le premier parti de France. Ça reste une menace importante. Et on va voir ce que va donner un Rassemblement national à plus de 100 députés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire? Est-ce qu'ils vont réussir à faire tomber des gouvernements? On le verra. Léa, tu voulais en parler.
Je voulais juste, justement, peut-être nuancer un peu ces chiffres, notamment sur les 10 millions de voix. Il faut noter qu'il y a un écart qui est beaucoup moindre. Alors, c'est vrai que tout le monde dit oui, 10 millions pour le RN au second tour et que 7 millions pour le NFP au second tour, etc. Alors déjà, mathématiquement, c'est assez logique parce que le RN a présenté masse de candidats dans quasiment toutes les circonscriptions. Il n'y a eu aucun retrait, alors que le NFP en a retiré plus de 160. Donc déjà, voilà. Et au premier tour, c'était pas loin. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment autant de voix pour le Nouveau Front Populaire que pour le Rassemblement National. Je crois que ça s'est joué à 400 000 voix. Enfin, c'était pas énorme. Donc juste un peu aussi revenir sur ces chiffres, parce que c'est des choses qui sont portées notamment par des influenceurs d'extrême droite en disant finalement c'est nous qui avons remporté les élections, machin. Ce qui s'inscrit d'ailleurs dans une logique anti-institutionnelle qui est une pierre angulaire du fascisme.
Ils étaient dans quasi 577 circonscriptions.
Donc du coup, mais voilà, c'était important. C'est important de nuancer aussi ces chiffres parce que ça peut sembler effectivement genre ah oui, effectivement c'est vrai, c'est pas légitime. Du coup, ils devraient avoir tous les sièges à l'Assemblée nationale. Donc non, il faut reposer les choses, rappeler que il y a quand même beaucoup de députés du NFP qui n'étaient pas présents au second tour et c'est aussi pour ça que du coup il y a pas de voix pour elle et eux. Nuancer ces propos et rappeler que le groupe qui a remporté, enfin la coalition qui a remporté ces élections, c'est le Nouveau Front Populaire.
Une coalition de groupes, effectivement. Le Front Républicain a fonctionné. Le Front Républicain a fonctionné avec cette situation un peu bizarre où beaucoup de députés macronistes ont été élus grâce à beaucoup de voix de gauche qui ont fait barrage au Rassemblement National, de la même manière que beaucoup de députés du Nouveau Front Populaire ont été élus grâce à des voix macronistes qui ont fait barrage également. Ça crée cette espèce d'ambiance un peu particulière. Est-ce qu'ils vont se sentir redevables de ces votes-là? On se souvient d'Emmanuel Macron qui avait dit « ce vote m'oblige » au moment de la présidentielle. Est-ce que les députés... Non mais justement, est-ce que les députés, eux, vont se sentir obligés par ce vote un peu bizarre? Et est-ce que ça va les aider à éventuellement faire des alliances ou des non-censures. Émilien ?
Même Chirac, en 2002, avait été quand même élu largement. Il n'avait quand même pas fait un score incroyable au premier tour. Il a été élu très, très largement grâce à l'émission de l'ensemble des gens, on va dire, de toute la gauche, sauf la Guillée, jusqu'à droite et le centre. Et ils n'ont absolument rien fait. Bon, faut dire ils ont obtenu une très large majorité par leur propre groupe à l'Assemblée nationale. Mais en ce cas, il n'a pas lui-même, en tant que président de la République, semblait vouloir prendre en compte des aspirations un petit peu différentes, je sais pas, en s'ouvrant par exemple au niveau des ministères. Emmanuel Macron n'a rien fait du tout sur ce plan-là. Il a même quelque part, on aurait pu considérer que bon, il se sera rallié à l'opinion majoritaire sur certains sujets. Et la réforme des retraites a bien montré que s'il avait envie, il le faisait passer tant qu'il avait les moyens institutionnels. Et là, ça sera enfin plus possible. Et donc, ça sera au niveau de chaque député, dans son âme et conscience, de faire quelque chose. Mais je ne suis pas bien sûr que les logiques d'appareil ne finissent pas par l'emporter à nouveau, comme d'habitude.
C'était Nicolas Sarkozy qui avait fait une politique d'ouverture à gauche, alors que rien ne lui obligeait, puisqu'il a été élu
sans aucune
voix de gauche.
C'était
pas ouf.
Ça n'a pas duré longtemps.
Tu viens de dire quelque chose d'important. Tu diras, chacun en son âme et conscience, ça illustre quand même l'explosion, en réalité, du bloc macroniste, qu'avec le Front républicain a réussi à se maintenir et à pas totalement disparaître, mais c'est ultra hétérogène, les comportements vis-à-vis de la gauche, les comportements vis-à-vis du programme, les comportements vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Certains sont pro-Emmanuel Macron, certains essaient de se distancer. C'est le gros bazar, mais moi, ça me met pas du tout en confiance. C'est-à-dire, je n'y crois pas dans ce qui pourrait ressortir en mode le vote m'oblige. C'est-à-dire que déjà, avec 89 députés Rassemblement National, ils nous ont pondu une loi immigration, mais là, les amis, avec 143 députés nationaux, je ne sais pas ce qu'ils vont nous pondre. C'est-à-dire que la dynamique d'extrême droitisation de la vie politique, parlementaire et médiatique, elle ne va pas s'arrêter, ça c'est sûr.
Oui, ça je suis d'accord avec toi. Malek, est-ce que c'est la fin de la Macronie ?
Nous y sommes.
Tu penses vraiment ?
En fait, la Macronie, rappelons-le, ne reposait sur aucune base idéologique à part sur la petite personne d'Emmanuel Macron. Ils arrivaient plus ou moins à s'unir autour de ça, sauf qu'on le voit bien, depuis deux semaines, ça n'existe plus. La semaine dernière, ne serait-ce que sur les consignes d'entre-deux-tours, déjà c'était la division entre un Édouard Philippe qui a appelé au Nini, un Gabriel Attal qui, entre le premier et le deuxième tour, a changé de discours en disant finalement, même LFI, en réalité, n'hésitez pas à mettre un bulletin de vote, mais il faut faire barrage au RN. Donc merci à lui d'ailleurs, il faut bien le féliciter des fois pour des choses, d'avoir pris ses responsabilités là dans le contexte. Et là, après élection, on sait que Darmanin a fait petite bamboche avec des députés l'aile droite de la Macronie. Maud Bréjon et Benjamin Haddad, tous ses amis toute la journée, qui n'ont pas arrêté de tweeter que quoi qu'il arrive, il ferait tomber le gouvernement du Front Populaire en votant une motion de censure. T'as l'aile gauche avec un Sacha Houlier qu'on avait déjà reçu sur ce plateau, qui s'est réuni avec une trentaine de députés.
Qui va peut-être faire un groupe social-démocrate.
Un Clément Beaune, il y a quelques heures, qui vient de dire dans la presse que, pour lui, le nouveau Front Populaire a remporté ses élections législatives, si on regarde arithmétiquement parlant. Donc, on le voit bien, en réalité, ils ne font plus du tout unité, et plus rien ne va en Macronie, et tout vient de tomber.
Non, c'est intéressant, ce sera à suivre de très très près, parce que vous vous doutez bien qu'avec une Assemblée nationale aussi divisée, beaucoup de choses vont se jouer à l'Assemblée nationale, et moi je me pose la question de savoir à quel point est-ce que les députés macronistes se sentent liés par Emmanuel Macron. Est-ce que Emmanuel Macron va avoir la main sur ce groupe-là ? Moi je pense qu'Emmanuel Macron a encore la main. Parce que c'est lui qui va décider de faire ou de défaire des gouvernements, c'est lui qui va dire à ses députés, par exemple, moi le scénario que j'imagine, c'est que le nouveau Front Populaire va proposer un gouvernement et qu'Emmanuel Macron va le mettre au pouvoir en disant à ses députés, ne le censurez pas, en tout cas pas dans un premier temps, laissez-les travailler et faites-les chier avec des amendements, faites votre travail. Défoncer toutes les lois du NFP, tout leur programme, à chaque fois qu'ils veulent dépenser trop d'argent, vous mettez des amendements, vous menacez de pas voter le budget, etc.
Pour gérer un groupe à l'Assemblée nationale, lorsque tu es l'exécutif, et en l'occurrence, lorsque tu es le président de la République, il faut quand même que tu aies quelqu'un qui le fasse. Et généralement, c'est le rôle du ministre ou de la ministre des Relations avec le Parlement, et ou le rôle du ministre qui est au banc pour défendre les projets de loi. Et du Premier ministre, parce que Gabriel Attal, c'était ça. C'était un ministre des Relations avec le Parlement, plus, pour le coup. Donc, si Emmanuel Macron est seul tout au sein de l'exécutif, qui va gérer ça ? C'est-à-dire, qui va gérer...
Un président de groupe.
Tu parles, mais déjà que ça...
Ils deviennent un groupe d'opposition.
Ils deviennent un groupe d'opposition assez classique, mais du coup, il ne faut pas que le dialogue soit totalement rompu avec l'Élysée, quoi.
Et c'est aussi pour ça que dans ce travail d'opposition, avec différentes voix au sein même de cette coalition ensemble, ça va être vraiment drôle à voir. je défie, par exemple sur l'abrogation, ne serait-ce que sur l'abrogation de la loi immigration, eh ben j'ai envie de voir ce que va voter Sacha Houlier et son groupe social-démocrate, et ce que va voter Gérald Darmanin avec son groupe de droite.
Bon, on sait.
Non, mais c'est vrai, et c'est peut-être là, et tu as raison parce
que là ils sont plus ensemble.
c'est peut-être dans ces moments-là et sur ces votes-là qu'on va voir la fin de la Macronie.
Bah oui.
C'est exactement au moment où il faudra se prononcer.
Je prends aussi l'exemple d'Agnès Pannier-Runacher ce matin qui était ministre la sortante dans le gouvernement de Gabriel Attal, qui ce matin dans la Voix du Nord te dit que la réforme de l'assurance chômage, ben elle en est pas fan. Voilà, ça y est, ça commence à sortir du bois.
Non, mais c'est intéressant.
La Macronie s'est terminée
de ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi. Il y a un groupe qui s'en sort pas trop mal, je trouve, qui sauve les meubles, c'est les Républicains. Les Républicains non-ciotistes.
Et Horizon.
Ils réussissent à progresser en nombre de députés. Horizon aussi. J'ai entendu Édouard Philippe, le soir du premier tour, dire « il y a tout à reconstruire à droite et au centre, j'y suis prêt ». Ce qui m'intéresse beaucoup, parce qu'à mon avis, il va y avoir un move qui va partir, là aussi, dans cette recomposition, où la droite va vouloir se recomposer sur des bases nouvelles. Émilien.
Alors, il se trouve que Laurent Wauquiez, qui se positionne pour être donc, le chef de file du groupe LR à l'Assemblée, a plus ou moins fait comprendre qu'en fait, il voulait rien faire du tout. Il dit ni compromission, ni coalition. Okay. Donc, ils ont parti pour ne rien faire.
Mais est-ce qu'ils vont voter les motions de censure? C'est ça qu'on veut savoir.
Non, mais ils vont rien faire chier. Ça, il n'y a pas de doute. Ils sont très, très forts. Mais je ne suis pas sûr que. Voilà. En tout cas, ils ont peur de vouloir s'engager dans cette fameuse coalition centrale dont rêvaient certains macronistes ou autres centristes, de Sandrine Rousseau à Laurent Wauquiez, quel bel gouvernement. Mais après, est-ce que ça bougera du côté d'Édouard Philippe, etc.? Bon, à un moment donné, il y a bien un constat qui est que Édouard Philippe n'a pas changé d'idée depuis qu'il est parti des Républicains, et c'était déjà ce que c'était les Républicains en 2017.
Ouais.
Les Républicains sont les Républicains, qui malgré tout sont ceux qui n'ont pas voulu, même s'il y avait aussi des raisons personnelles, d'intérêt personnel, ne pas voulu rejoindre le RN. Donc à un moment donné, il va y avoir un truc un peu risible d'avoir ces deux groupes Horizon et LR qui en plus sont moins tenus par un soutien ou non à Macron, donc ils pourraient les cliver. Donc il y a bien quelque chose qui se passera. Après, évidemment le problème du combat de coq qui est le propre de la droite depuis 50 ans et depuis qu'il n'y a plus de Gaulle. Mais entre Laurent Wauquiez et Édouard Philippe, voilà, je sais pas, il y aura des concours. Mais pour savoir qui elles
sont loin d'être morts, les LR.
Mais en tout cas, oui, ils vont jouer un rôle, bon, qui sera pas dingue, hein, mais ils vont jouer un rôle. Ils peuvent tout à fait continuer à, je sais pas, moi, essayer de rassembler plein de groupes différents pour faire voter des lois sur l'immigration. Ça peut tout à fait se faire.
Malek parlait tout à l'heure de ces macronistes de gauche qui commencent à sortir du bois, qui on a entendu Sacha Houlier qui veut éventuellement créer un groupe de députés sociaux-démocrates. Léa, toi, t'as regardé, il y a quand même beaucoup de macronistes de gauche qui ont paumé les élections.
Ouais. Voilà. Déjà, le concept en soi, il est sorti.
Macronistes de gauche, c'est très marrant.
C'est à prendre avec des pincettes. Mais allez, le seul, notre mascotte un peu chez Baxit, Clément Beaune, typiquement, s'est fait tège. Premier tour.
Chez. Pardon.
Il regarde certainement Baxit parce qu'il doit.
En plus, il regarde Baxit, il a plus que ça à faire.
Non, mais voilà. C'est
la malédiction
Baxit. Il y en a un certain nombre qui se disaient de gauche. Bon, voilà. Ça ne les engage qu'eux.
Olivier Véran, qui effectivement
n'ont pas été réélus.
Ouais.
Donc finalement, déjà que c'était pas foufou, cette jambe de gauche, hein. Là, on est sur un demi-orteil, quoi.
Mais j'aurais bien voulu réagir à ça. Moi, je pense quand même que le nouveau Front populaire, c'est très peu dit, mais a pour vocation à essayer d'aspirer la Macronie sur sa gauche. Enfin, quand même, la candidature d'Aurélien Rousseau, en termes tactiquement de la part du PS et de place publique, ne vient pas de nulle part. Ça a toujours été des discours politiques avec une mise en avant, notamment de Marine Tondelier, comme une espèce de figure consensus qui a été là pour parler à un public très diplômé, très centre-ville, et y compris pour essayer d'aller gagner jusqu'aux macronistes, etc. On a très peu entendu parler des questions de travail, etc. Mais Mélenchon a essayé, je crois, de quand même tenir la ligne sur ces questions-là, retraite, etc., machin, décret. Ce matin, Yael Braun-Pivet lui a répondu en mode « Oh mon Dieu, si la gauche gouverne par décret 49-3, c'est autoritaire. Alors, madame, il s'agirait de faire une introspection. » Voilà. Donc, moi, c'est ce que je vois du NFP. Donc, ne sous-estimons pas cette espèce d'engagement qui va essayer de venir venir chercher des macronistes de gauche. Et en cela, Emmanuel Macron, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer que c'est quand même une déstabilisation pour lui. Je crois qu'un gouvernement Nouveau Front Populaire est possible parce que Emmanuel Macron, je crois qu'il va vouloir essayer de défier le NFP qui mange sur ses partisans, on va dire, de gauche avec de grandes guillemets, de grandes guillemets. Il va essayer, je pense, pourquoi pas, hein, d'être peut-être OK avec un gouvernement NFP, mais essayer par contre, là, c'est là où je te rejoins moins, Jean, peut-être essayer en vrai de faire en sorte qu'il se casse la gueule. J'entendais Boris Vallot sur France Inter ce matin, les journalistes, y compris la Macronie, sont extrêmement piquants, en mode, de toute façon, vous allez durer 5 jours, vous allez durer 3 semaines, puis nous, on va y aller avec les motions de censure, et puis machin. D'autant plus que Emmanuel Macron sait que là, le contexte politique, les amis, entre la crise institutionnelle, la pression des marchés financiers, moi j'adore l'économie, donc je suis en train de regarder absolument tous les taux d'intérêt depuis la dissolution, c'est absolument la folie, la pression des marchés financiers, l'instabilité politique, les guerres à l'international, je veux dire, c'est l'enfer en termes de gouvernabilité, y compris pour un gouvernement de gauche. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que le combat politique et la mobilisation sociale, si vous voulez des avancées, ça va être l'essentiel. Voilà.
Et dans le discours, Jean-Luc Mélenchon a fait 2 discours dimanche soir. Il y en a un qui a été diffusé par les chaînes info, l'autre non. Dans le deuxième, il a appelé les jeunes gens qui étaient dans la foule et les moins jeunes
à faire mieux.
Mais à maintenir la mobilisation et à ne pas lâcher en disant voilà, nous on va galérer quoi qu'il advienne avec cette majorité relative, donc il faudra que le peuple parle dans la rue pour qu'on aille obtenir des choses.
Et alors quid de ce scénario voulu par certains macronistes d'un éclatement du Nouveau Front Populaire et d'une coalition qui rassemblerait les communistes, les écologistes, les socialistes et les macronistes?
Je n'y crois pas.
Moi j'ai regardé numériquement, elle n'a pas de majorité absolue cette coalition. Là, mais de toutes les façons, il faut qu'on arrête de penser en majorité absolue, c'est terminé.
C'est clair.
Je pense qu'elle aurait une minorité gouvernante qui ne tiendrait pas longtemps.
En fait, on est en train de faire ouin-ouin sur ils n'ont pas de majorité absolue. Elisabeth Borne n'en avait pas.
Elisabeth Borne, elle avait 245 députés.
Oui, c'est pas du tout les mêmes proportions. Mais j'ai envie de te dire, ça reste tout de même une majorité relative. Et donc voilà, donc ça va être la bagarre, il va falloir bricoler et il va falloir tracer. Ce scénario, si une majorité absolue se réunissait avec toute la coalition que tu viens de décrire, peut-être, et encore, mais... Alors, un, déjà, ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, je vais parler à mes anciens camarades socialistes, aux écologistes, désolé de dire qu'ils doivent leur renaissance aussi à la NUPES 2022 et aujourd'hui au NFP 2024.
Mais vice-versa.
Tu vois ? Oui, vice-versa. Vice-versa. Mais par contre, le procès en trahison est beaucoup plus important du côté des socialistes que du côté des insoumis.
Oui, bien sûr. Non, c'est sûr. C'est pour ça que je me pose la question. Jusqu'à présent, les mots qu'on a entendus de la bouche de Olivier Faure vont pas du tout dans la direction d'une alliance avec les macronistes pour essayer de gouverner.
Parce que ça lui a sauvé les fesses. Je veux dire, la NUPES a permis au Parti Socialiste de se réhabiliter. Le Nouveau Front Populaire, c'est pareil. Et donc, en fait, pour l'instant, s'enfoncer dans une coalition avec la Macronie, d'une certaine manière, ce serait signer un accord avec des gens qui sont un peu en mort cérébrale politiquement, parce que vraiment, ce qui se passe à l'Assemblée ne reflète pas l'ambiance politique dans le pays. C'est-à-dire que le Front Républicain est un miroir déformant de l'ambiance au sein du peuple français et des citoyens, etc. Donc, je pense que les partis de gauche, et notamment le Parti Socialiste, sont pas assez bêtes pour tout de suite s'embarquer dans une alliance avec un parti politique qui a plus ou moins signé son arrêt de mort. Et donc là, en fait, ils vont maximiser, pendant un certain temps au moins, l'alliance avec le Nouveau Front Populaire pour être sûr de ne pas trop mourir, quoi. Voilà,
ils auraient tout intérêt.
Au sein même du PS, Olivier Faure a réussi à engager un François Hollande sur un programme de rupture.
Mais
François Hollande te dit en ITV...
Tu sais que Faure, il n'était pas chaud. Hein.
Alors... Au fort, il était pas chaud, mais au final, on lit ce matin dans, hier dans un papier de l'Express, que finalement, l'avoir dans la boucle pour défendre ce programme de rupture, ça l'arrangeait bien.
Oui.
Tu vois,
oui,
évidemment.
De fait.
Évidemment. Ne serait-ce qu'au sein du PS.
Et donc, même dans les médias, parce que moi, je m'attendais à ce qu'un François Hollande dans les médias dise, OK, moi, je suis candidat NFP, mais le programme, voilà.
Non, il a joué le jeu. Hein.
Il a joué le jeu jusqu'au bout. Donc, arrêtez, quel serait l'intérêt d'Olivier Faure d'aller tuer le Parti Socialiste alors quand il revient d'entrer les morts?
Manuel Valls qui a revendiqué Hollande dans mon débat avec lui d'ailleurs. J'étais genre, oh waouh, j'ai fait OK, le Nouveau Front Populaire, bon bye bye.
Mais ce qui est ouf, globalement, moi ce que ça m'inspire quand même, c'est que là, on change radicalement de culture politique. Enfin, on va devoir changer radicalement de culture politique. C'est la première fois qu'on se retrouve dans ce cas de figure avec un morcellement en 3 blocs quand même assez évident au sein de l'Assemblée nationale. Dans un régime semi-présidentiel, c'est assez inédit parce que du coup, on est au-delà d'une question de cohabitation. C'est-à-dire que la cohabitation, elle fonctionne à condition qu'on reste dans quelque chose de bipartisan. Sauf que là, on est sorti du bipartisme. Donc c'est, moi, je pense qu'on va, on a des années politiques devant nous sur la pratique de la culture politique qui vont être assez passionnantes. Mais ça veut dire aussi.
Qui vont décevoir beaucoup de gens.
Ça veut dire aussi que, ou pas. Ou pas, parce que si on rentre davantage dans une logique peut-être de coalition, de compromis, la réalité en fait de la politique, de voilà d'essayer de négocier des choses pour faire avancer pour le mieux, peut-être qu'on va avoir de meilleurs résultats que ce dernier quinquennat, pardon, ce non ce dernier deux années, comme on dit en deux années.
Deux années.
Bref, ces dernières deux on années où
Macronat
de deux ans où finalement Macron a vraiment dirigé de manière totalement autoritaire en faisant fi de ce qui se passait au Parlement, maintenant, en fait, ça le rattrape. Le Parlement, il va être obligé de l'écouter.
Alors moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais donc, t'es d'accord pour dire que le programme du nouveau Front Populaire ne va pas être appliqué en intégralité, c'est
pas
vrai.
Ah bah non, c'est évident.
Ce n'est pas
c'est
vrai.
Impossible.
Le NFP
impossible.
Va le vouloir, mais ils vont devoir jouer avec des amendements, ils vont devoir faire de la discussion parlementaire,
absolument.
Et ils vont devoir faire ces fameux compromis.
Et je pense que, je ne sais pas lesquels... J'aurais du mal à dire quel est le parti le plus capable de ce type de compromis. Puisque j'ai pas l'impression qu'il y ait un parti qui soit en capacité de se distinguer sur cette culture politique. On a toujours cette culture politique du, voilà, de celui qui veut réellement tirer la couverture vers lui, etc. On a quand même vu qu'il y a eu quelques exceptions, notamment pendant ces dernières années. Je pense à l'IVG dans la Constitution, je pense à la fin de vie, où il y a eu un certain nombre d'unanimités à l'Assemblée nationale et qui a réussi quand même à... Alors peut-être qu'on va avoir une Assemblée qui va pas avancer énormément, mais qui va avancer sur des trucs très forts comme ça, peut-être.
Mais pour moi, c'est pas les mêmes sujets, parce qu'en fait,
non,
ces sujets,
clair.
Effectivement, de, on va dire, de vie publique, très symboliques, c'est des choses, en réalité, que les libéraux, y compris au centre et à droite, veulent se réapproprier, parce que c'est des gens qui sont très sensibles ce qu'on appelle au grand temps de l'histoire. Puis voilà, c'est la fait. Vie parlementaire, c'est une vie qui est très théâtrale aussi. Mais par contre, là où, sur le terrain, je suis extrêmement inquiète de l'extrême droitisation de la vie publique, c'est-à-dire on fait croire à des gens, notamment des classes populaires, qu'ils doivent aller chercher les miettes chez les Noirs et les Arabes, alors qu'en fait, les miettes, je suis désolée, elles se trouvent pas du côté de chez nous, mais il faut aller voir du côté des PDG comme chez Pouyanné. Enfin, désolée les amis, c'est pas ma mère, moi, qui est en train de voler le mec qui est dans son usine au fin fond de Martigues. Et donc, en fait, là, le problème, c'est que moi, quand j'entendais Yael Braun-Pivet ce matin sur France Inter dire que certes, elle était ouverte à une coalition parlementaire et que la journaliste essayait de la chercher sur la question du programme. Est-ce que vous êtes d'accord dans ce cas-là pour voter pour l'augmentation du SMIC, etc. Ou je veux dire, là, l'inflation, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup plus les gens que, on va dire, je sais pas, même y compris la question de la fin de vie ou la question du droit à l'avortement, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. La réalité, c'est que là, elle s'est retirée, elle a dit non mais en fait, on mène pas des discussions comme ça, on mène pas des discussions en imposant des mesures. Bah, dans ce cas-là, madame, c'est quoi? On discute sur du vin, on sort les violons, vous mangez du homard, j'en sais rien moi. Et en fait, c'est en cela que je trouve qu'en fait... En fait, je pense qu'il y a quand même des formations politiques à gauche qui ont cette tradition du compromis et qui sont ouvertes à discuter sur du vent. Moi,
c'est pour
ça
que, à mon avis, les législatives, n'importe quoi, les municipales, faut les taffer dès maintenant, en fait.
2026, ah ouais.
2026, c'est aujourd'hui.
Ah oui, ça c'est sûr, les municipales, oui.
Pour l'avenir politique, notamment de la gauche.
Et il y a beaucoup de sortants socialistes aux élections municipales. Est-ce que les insoumis vont faire alliance avec les socialistes dans les villes socialistes?
Il y a pas mal de sortants.
Abonnez-vous à la chaîne.
Il y a
encore plein de gens dans le chat qui spam constituante sur la proposition de Clément Viktorovitch. Alors à mon avis, ils spamment ça pour se moquer de cette proposition parce qu'ils savent qu'elle a très très peu de chances d'arriver et que de toutes
zéro,
les façons,
ça,
l'Assemblée c'est absolument zéro. Ouais. Mais ils savent surtout que l'Assemblée constituante n'est pas une solution au problème. L'Assemblée constituante est un projet à long terme pour faire évoluer les institutions, pour éventuellement qu'on ait une 6e République et qu'on sorte du scrutin majoritaire, etc., peut-être. Mais l'Assemblée constituante ne résoudra pas le problème qu'on a, parce que le problème qu'on a, il est immédiat, et je vous rappelle que le prochain budget, il est à l'automne. Il n'y aura pas de constituante d'ici à l'automne, il n'y aura pas de nouvelle constitution, il n'y aura pas de nouvelle élection, il n'y aura pas de nouveau quoi que ce soit. Donc, la constituante n'est pas une solution à court terme, et le problème qu'on a aujourd'hui, il est à court terme. Une constituante, pour ceux qui ne savent pas, pardon, une assemblée constituante, c'est un projet, ça n'a jamais existé. C'est un projet d'élire une assemblée ou de tirer au sort une assemblée qui aura vocation et uniquement vocation à écrire une constitution qui ensuite serait proposée au vote des Français par un référendum. C'est ça le projet d'une constituante. C'est une proposition portée par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle à plusieurs reprises.
Et Clément Viktorovitch,
qui
hystérise le débat public.
Hystérise le débat public.
Je l'ai bien vu dans le chat.
T'as vu les Victor Ozouz
c'est radicalisé, je suis très inquiet.
Non, mais j'adore Clément et au demeurant, je suis favorable à une constituante. Hein, j'adorerais qu'il y ait une constituante dans ce pays, évidemment, mais là, à court terme, c'est pas du tout la solution.
Citoyen.
Tirage au sort. Oh, voilà, assemblée citoyenne. Il y a aussi des questions qui sont posées sur l'utilisation de l'article 16 de la Constitution. Ça, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. L'article 16 de la Constitution, je le redis, est un article qui a été mis dans la Constitution en 1958 en ayant deux événements en tête. Le général de Gaulle avait en mémoire la débâcle de 1940 et la guerre d'Algérie. L'article 16 est un article qui s'appelle « Les pouvoirs exceptionnels » où le président de la République a la possibilité de prendre des décisions à peu près celles qu'il veut dans une période de crise gravissime, mais de crise tellement grave qu'elle empêche les pouvoirs publics constitutionnels de fonctionner normalement. Et les décisions que doit prendre le président de la République doivent se limiter à réintroduire les pouvoirs publics constitutionnels dans leur bon fonctionnement. L'article 16 ne permet pas de gouverner un pays. Ça ne permet pas de changer l'âge de départ à la retraite, ça ne permet pas d'augmenter les salaires, ça ne permet pas de faire de l'éducation nationale, de je sais pas quoi. Oubliez l'article 16, ça ne sert pas à gouverner.
D'ailleurs, tu ne peux pas dissoudre l'Assemblée en article 16.
Absolument interdit de dissoudre l'Assemblée en article 16. L'Assemblée se réunit de plein droit, le Conseil constitutionnel aussi. En gros, c'est les bombardiers au-dessus de Paris, l'article 16. Enfin, faut imaginer. Ou alors des barricades dans le 7e arrondissement.
Utiliser une seule.
Voilà. Donc voilà, le jour où on en sera là, évidemment, je serai en direct sur ma chaîne Twitch et on commentera ça ensemble. Mais on n'en est pas là. Là, en ce moment, les amis, on a un blocage politique à l'Assemblée nationale, ce n'est pas un dysfonctionnement de l'Assemblée nationale.
Tout à fait.
L'élection a eu lieu, les députés vont jouer leur rôle de député, ils peuvent voter, ils peuvent faire
mais
des coalitions.
En vrai, c'est pas tant le bordel que
c'est
ça.
C'est pas tant le bordel que ça. Au contraire, on est en train de découvrir, et tu l'as très bien dit Léa, une culture politique que beaucoup d'autres pays européens découvrent et qui sont en train de regarder les Français en disant alors, first time alors ça découvre.
C'est pas une crise institutionnelle, je pense pas.
Et désolé de te dire qu'en réalité, c'est super sain. On a eu une législature sur le premier mandat Macron avec un parlement complètement absent, qui n'existait pas.
Ah oui, c'est
vrai. Qui a fait figuration. T'as dû te faire chier d'ailleurs, mon pote.
Ah, sur ma chaîne, on s'emmerdait. Non, mais c'est vrai, on se faisait chier.
Bah, voilà. Le parlement aussi, hein.
aussi. On a eu les deux premières années où il se passait enfin des choses. Et là, désolé de te dire, le parlement a enfin son mot à dire.
Ah non, mais ça nous fait bizarre en France, hein.
Et qu'on le veuille ou pas, je vais citer Clément Beaune, du coup.
Let's go.
Le Front Populaire a gagné ses élections. Qu'on le veuille ou pas.
Oui, mais voilà. Oui, merci.
Et donc, oui, il va falloir se batailler. La semaine dernière, j'avais pas forcément, là, contrairement à Léa, et encore une fois, on big up Léa pour ça, mais j'avais pas l'option de la victoire en tête. Mais j'avais dit ici que, à minima, même si le Front Populaire n'allait pas appliquer ce programme, il fallait au moins le défendre jusqu'au bout. Et donc, c'est ce que va devoir faire un gouvernement du Front Populaire s'il est nommé. On verra. L'appliquer avec les mesures par décret, parce que là, pour le coup, il y a le mandat des urnes. Et pour tout ce qui relève de la discussion dans l'hémicycle, va falloir aller bagarrer jusqu'au bout. Parce qu'il y a des gens qui ont voté pour ça. J'entends déjà, il y a une brune pivée dès ce matin sur oui, les décrets, trop marrant, de sa part surtout. Les urnes ont parlé, donc ça veut dire que les blocages des prix, le peuple vient de parler. L'augmentation du SMIC, le peuple vient de parler. Donc personne n'a rien à dire en réalité.
Et en plus de ça, c'est une occasion, mais en or, pour la gauche de se réapproprier un récit.
Exactement.
Fait, et de le porter. Et de le mettre en œuvre. Donc franchement, attention, on vous regarde là.
Et il y a eu aussi...
Ne nous décevez pas.
Oui, ne nous trahissez pas. On vous l'a dit la semaine dernière, on vous le redit là. Je pense qu'il y a un devoir des électeurs de gauche de le rappeler au Front Populaire. Il y a un devoir d'exigence de tous les chefs de parti. Il y a eu une mobilisation... On n'a pas parlé de la participation aussi au second tour. Il y a une mobilisation extraordinaire, il faut le dire. Le peuple français... Je parlais comme Jean-Luc, décidément. C'est réapproprier le jeu des urnes. Go.
Je te dis, t'es devenu mélanchoniste.
Tu sais quoi?
Alors que Hollande est au Parlement, putain.
Ouais. J'ai envie de te dire, j'étais peut-être la synthèse entre les deux depuis le début. Et ils vont se retrouver
Malek, est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, pour dire qu'un Front Populaire qui va de Mélenchon à François Hollande, ça s'appelle le Parti Socialiste? Allez, let's
go. Version 80. Version 80.
Mais version 2005.
Ouais, version
2005.
Ouais. Mais vintage.
Mais qui défendait encore des trucs un peu mous, quoi.
Ah bah oui, c'est le PS. Hein.
Non, on n'y est pas.
Non, c'est l'inverse, pardon. Mais le PS des années 90-80 défendait l'abolition de l'héritage. Alors l'AMDR aujourd'hui,
oui.
Franchement.
70.
Non, mais la 70 plus que 80-90, oui, il y avait quand même le virage de la rigueur entre-temps.
Il y a eu Jospin, il y a eu Mitterrand entre-temps.
La majo PS 2005-2006.
Ouais.
faisait un peu chien.
C'était François Hollande, l'homme de la synthèse, voilà. À l'époque. Tu te souviens? Voilà. T'as connu ça, mon bro.
Bah, heureusement qu'il y avait la motion B. Hein.
Heureusement que c'était celle de Jean-Luc.
Eh oui.
La motion B.
Mais donc là, tout le monde se réunit au sein de.
Il perdait tous les congrès. C'est pour ça qu'il en veut plus à la France Insoumise.
Malek, ça voulait bien ça.
Les deux sont réunis au sein de la même maison pour défendre un programme de rupture et j'en suis le plus heureux.
Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Gabriel Attal, le Premier ministre, a présenté sa démission comme le veut la coutume républicaine lundi matin. Le président de la République l'a refusé temporairement en lui disant « Attends, reste là, parce que là,
j'aimerais trop qu'Usul soit là pour imiter Macron qui dit à Gabi
« S'il te plaît, reste là donc il lui dit « Reste là, parce que là, j'ai rien d'autre. » Et j'ai rien d'autre pour une raison très simple, c'est que, en fait, il n'y a personne. On va parler de l'éléphant au milieu de la pièce, les amis. Le nouveau Front Populaire négocie depuis dimanche soir pour se mettre d'accord autour d'un nom de Premier ministre. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, à tel point que maintenant, ils sortent dans la presse. Les Insoumis ont fait fuiter Clémence Guettet. Olivier Faure a déclaré en arrivant à l'Assemblée nationale qu'il était prêt à assumer cette fonction si on le lui demandait.
Ouais, super, merci.
ça va peut-être être lui, ce sera peut-être Clémence Guettet, ce sera peut-être je ne sais pas qui. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, elle est là, la question.
Je vais te dire exactement ce que je te disais sur les investitures. En réalité, je m'en tape des personnes.
Oh, non, mais c'est trop facile.
Mais si tu savais comme je m'en tape.
Mais il faut quelqu'un là.
Tant qu'il y a quelqu'un en fait qui me garantit qu'il va pas trahir ce programme. D'accord. Parce que je t'explique, même mes potes qui en réalité ne sont jamais allés voter, on a fait une grosse soirée pour leur parler du programme. Si je leur explique qu'il y a un premier ministre ou il y a un ministre qui va les trahir et qui va faire. Faire des petites compromissions à droite à gauche, mais je t'explique, moi déjà je perds mes potes. Et deuxièmement, en réalité, ça veut dire que la politique ne veut plus rien dire.
D'accord.
Voilà. Donc en réalité, que ce soit Clémence Guettet ou que ce soit Olivier Faure, même si j'ai ma préférence, mais voilà.
Les autres, vous en pensez quoi?
Moi je pense, clairement, refaire. Comment on dit ça? De la compote dans les vieux pots ou je sais pas quoi.
Ouais,
dégueulasse.
Ouais, c'est dégueulasse. Je pense qu'il faudrait changer de tech. Il faut vraiment une personnalité qui soit en rupture en fait. Donc Olivier Faure pour moi exit, tu vois, on l'a trop vu. Oui. Voilà. Je pense que clairement Clémence Guettet c'est une bête d'idée. Elle est jeune, elle s'est vachement bien défendue dans les débats. Elle a une certaine hype, ça ferait vraiment du bien.
Elle s'entend bien avec tout le monde.
Moi je trouve ça tellement stylé.
Elle a le mérite d'être très proche de Jean-Luc Mélenchon.
Ouais. Alors c'est ça peut être un peu trop au goût d'un certain nombre en tout cas, notamment des dissidents LFI qui pourraient peut-être un peu faire la gueule parce que je crois qu'elle a été assez active au niveau de la purge notamment. Enfin en tout cas, elle faisait partie du petit groupe mais je pense que c'est ce type de personnalité vers lesquelles il faut aller. Il faut arrêter de nous ressortir toujours les mêmes gueules, les mêmes noms. Je pense que là on a une occasion encore une fois de vraiment proposer quelque chose de différent, donc allons-y quoi.
Mais je sais pas si vous avez vu dans Libération, la rédactrice en chef de Libération a fait un papier dans le journal en disant qu'il y a des figures nouvelles, en se gardant bien de mentionner quelconque personnalité politique de la France insoumise. Et puis, elle a mentionné Glucksmann, Ruffin et Marine Tondelier. Je crois qu'on ne doit pas sous-estimer le fait qu'en fait, l'entre-soi de la gauche bourgeoise, parisienne et dans les salons, en fait, va y avoir une offensive, moi je pense, dans une dynamique politique d'isoler la France insoumise, mais qui va se traduire aussi dans les négociations pour le ou la Première ministre, que Marine Tondelier est en réalité plutôt bien placée et que évidemment que ce qui se profile, ça va être des politiques de coalition momentanée, parlementaire, de compromis, dans des logiques de plus ou moins faire avancer. Et en cela, Marine Tondelier incarne plus ou moins ça. Donc en fait, je sais pas si moi j'ai la question, c'est pas si j'ai des personnalités ou pas politiques préférées, c'est qu'en fait, faut aussi entendre ce qui se passe dans les salons parisiens et que en soi les amis, c'est vraiment où là moi j'ai l'impression qu'on voit la différence entre la majorité et la minorité. Moi je trouve ça fou que ce soit une minorité de personnes qui savent que les personnes bourgeoises y compris de gauche votent et que la grande majorité qui là a fait des efforts ces derniers temps pour quand même pour se mettre la tête dedans, qui s'est politisée contre le Front National, y compris dans les quartiers, dans les campagnes, avoir fait voter les parents, les machins, les grands-parents et tout. Mais en fait voilà la majorité, en fait on va encore en prendre plein la gueule dans ces négociations-là.
Mais c'est pour ça que je pense, franchement, il n'y a pas de sujet. Et les filles est le principal groupe de gauche à l'Assemblée nationale, celui qui a porté quand même la NUPES et en partie le NFP, il faut quand même l'admettre, le Premier ministre ou la Première ministre doit venir des filles.
Et Jean-Luc Mélenchon rappelle
et que... Et Tondelier, on peut la mettre à l'Assemblée, si tu veux, ou Perchoir, je ne sais pas. Mais il n'y a aucune raison pour que ce soit les écolos qui soient... qui est Matignon. Aucune raison.
Dire, hein.
Marine Tondelier n'a pas été élue.
En plus.
Malheureusement. Parce qu'elle a perdu face à Marine Le Pen.
En plus.
Juste, c'est Olivier Faure, c'est Jean-Luc Mélenchon qui n'arrête pas de le répéter. C'est Olivier Faure qui a dit en premier, dans les débuts des négociations du Nouveau Front Populaire, que c'était le premier groupe au sein du Nouveau Front Populaire qui allait soumettre un nom de Premier ministre. Ça aussi que le nom de
Parce qu'il pensait encore que le PS allait dépasser la France
Insoumise. Exactement.
Or, il n'y a pas eu de rapport de force inversé, il n'y a pas eu de cap clair. Non.
Sauf s'il pique une quantité de députés divers gauche ou autres.
Alors, c'est vrai que les calculs doivent encore se faire aujourd'hui. C'était aujourd'hui la composition des groupes, l'arrivée à l'Assemblée nationale, on verra si dans les derniers calculs il a moyen de progresser. Peut-être que le PS passera devant LFI, mais de un ou deux sièges. Quoi qu'il en soit. Oui.
Mais c'est vrai que moi je suis d'accord avec Safia. En fait, on en a marre des compromis, au plus petit dénominateur commun. Et c'est la même chose sur les programmes.
Mais ça, je comprends
en matière
bien, mais...
programmatique, c'est la même chose. C'est genre non, mais on va prendre les petites mesures sympas. On va pas faire plaisir. Enfin, si on veut vraiment porter quelque chose de changer structurellement ce qui ne va pas dans notre société, il faut un programme de rupture, il faut des mesures radicales. Il faut pas des trucs de sosdem, de chez sosdem, de chez sosdem, juste pour faire encore plus plaisir. À chaque fois qu'il y a de l'union, elle se fait au profit du centre, du plus au centre. Faut vraiment arrêter ça. Parce qu'en fait, on se plante.
Je comprends ce que vous dites, je ne m'intéresse pas tant à ce qui est désirable que ce qui est possible. Et là, avec l'Assemblée nationale qu'on a, je me pose la question de savoir si une motion de censure ne va pas venir immédiatement doucher tous vos espoirs.
Mais c'est pour ça que je parlais de Tondelier, machin, dans les salons parisiens, c'est ce qui tourne. Moi, je pense que c'est possible que le nom de Tondelier sorte.
C'est là que je disais tout à l'heure que
d'imposer nos désirs.
Tu n'en as pas les moyens politiques, Léa. C'est ça le problème, tu vois. À l'Assemblée nationale, c'est pas possible.
On va les manifester, alors, du coup.
Mais ils s'en tapent. Macron, ils s'en tapent.
Non, mais on parle pas de Macron.
C'est lui qui dit. Donc,
c'est pour ça, tout à l'heure, que je disais qu'Emmanuel Macron n'a pas perdu la main, parce que c'est justement dans ce genre de discussion qu'Emmanuel Macron va ramener sa gueule.
Exactement.
Et qui va dire, moi, je veux pas nommer un LFI. Voilà, démerdez-vous.
Je pense qu'il y a une réalité, c'est qu'à un moment donné, il va falloir, si le NFP veut gouverner d'une manière ou d'une autre, une forme d'assentiment de la majorité du groupe ensemble, parce que c'est comme ça que ça va marcher, y compris s'ils s'abstiennent.
Absolument.
Et à un moment donné, je suis à peu près sûr que jamais un LFI ne passera. Voilà. Ils pourraient accepter un PS ou une ELV, mais jamais un LFI ne passera. Si on les écoute, c'est comme ça. Et ça peut être très malheureux pour certains, mais je suis à peu près persuadé que Clémence Guettet ne changera pas les choses. En plus, elle n'est pas si connu que ça dans les vis-à-vis des
c'est pour ça que les amis on peut compter que sur nous-mêmes. On va pas turlupiner 3000 ans sur machin de l'attente des négociations. Je sais que c'est important, mais il faut compter sur nous.
Plusieurs trucs là dans ma tête, c'est un peu le bordel. J'essaie d'organiser ça. Moi, sur qui va être candidat au poste de Premier ministre, le Nouveau Front Populaire a annoncé qu'ils allaient annoncer un candidat au poste de Premier ministre et une composition de gouvernement. Donc, ils s'accordent sur ça en ce moment dans les discussions. Et l'idée, c'est que d'ici la fin de semaine ou le début de la semaine prochaine, ils annoncent une composition d'un gouvernement complet. Moi, déjà, ma question, c'est Emmanuel Macron, c'est quand qu'il appelle le Nouveau Front Populaire à former un gouvernement, s'il le fait d'ailleurs? Déjà, ça, c'est ma vraie inquiétude.
Il y a eu un communiqué de presse qui a été sorti aujourd'hui du Nouveau Front Populaire.
Quand on appelle à former un gouvernement, il faut qu'il y ait un Premier ministre. En fait, généralement, comme ça que ça se passe dans les autres pays, en Espagne et tout. Si on appelle quelqu'un, on lui dit tiens, je te cherche à faire un gouvernement et tu me trouves une majorité. Il faut déjà qu'il trouve un nom.
La subtilité, elle est fine, mais aujourd'hui, un Gabriel Attal démissionnaire pourrait aujourd'hui rester au pouvoir et gérer les affaires courantes, sauf que ce n'est pas ce qu'a décidé Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il pourrait être démissionnaire en attente d'un nouveau gouvernement, Gabriel Attal.
C'est le cas, là.
Non, il n'est pas démissionnaire.
Il a refusé la démission. Oui, d'accord.
Et la subtilité,
mais ça change rien.
Tu joues sur les mots, non?
Non, mais non. Pourquoi ça a son importance?
Est-ce que tu crois qu'il fait du quiet quitting?
Pourquoi ça a son importance?
Je vais te dire pourquoi ça a son importance, parce que t'as 18 membres du gouvernement qui ont été élus députés, et s'ils ne sont pas considérés comme démissionnaires, ils ne pourront pas voter la semaine prochaine pour la présidence de l'Assemblée nationale ou pour les présidences des commissions. Et ça, je sais, 18 voix, je pense qu'ensemble, 18 voix, ils les prennent. Hein, ça ne sera jamais trop.
Suppléant.
Donc, aujourd'hui, les suppléants, ils ne sont pas envoyés aujourd'hui vers l'Assemblée nationale.
Les suppléants, ils siègent, non? Les ministres.
Si tu es nommé ministre, les suppléants siègent.
Là, tu as les suppléants qui sont partis s'inscrire à la place de leur député.
Pas encore. Parce qu'ils ne sont pas encore ministres, les mecs.
C'est pour ça que je te dis que ça va se débloquer dans les prochains jours. Mais que ça, il aurait pu exister, et il aurait pu accepter la démission, ils auraient été
démissionnés. Mais il faut bien quelqu'un pour gérer les affaires.
Ils auraient pu aller s'inscrire à l'Assemblée nationale.
Il faut bien genre un ministre de l'Intérieur, il y a un feu de forêt, une connaît comme ça, tu vois.
Eh ben, il aurait pu gérer en attendant la nomination d'un nouveau gouvernement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'il a décidé, Emmanuel Macron. Même Philippe Bas, le sénateur LR,
c'est vrai.
Dit, c'est pas normal.
Oui, non,
et
c'est vrai.
Philippe Bas le dit, désolé, c'est bordel.
C'est vrai.
Donc là, on nous parle aussi de ah non non, c'est le, on a peur parce que le pays va pas être gouvernable. Donc ok, nouveau Front Populaire gouvernement qui est tombé si Clémence Guettet ou si un membre de LFI est premier ministre. Ok, donc après c'est quoi l'étape d'après? On laisse un gouvernement ensemble LR, mais qui va tomber aussi dans la seconde.
Et bah, c'est pour ça qu'on arrive à la question qu'on n'a pas encore abordée dans cette émission, c'est le gouvernement technique.
Mais c'est... ça j'y crois pas les gars moi.
Bah si t'as un blocage à l'Assemblée nationale, je te jure qu'on va être obligé.
Je vous promets, mais ne serait-ce que parce qu'il faut respecter aussi le résultat des urnes, je vous promets que je pense qu'à un moment ensemble va dire bah écoutez, nous on vote pas la motion de censure, on fait pas tomber le gouvernement du Front Populaire, on vous laisse batailler comme vous voulez, déployer votre programme et on part se bagarrer à l'Assemblée, mais on vous fait pas tomber.
C'est vrai que ça serait plus malin en vue d'une prochaine élection de dire à la gauche ok vous faites votre truc, vous faites bien pourrir et tout, et on reviendra dans un ou deux ans.
Moi j'en suis convaincu. Hein.
Si on croit la Macronie, je cite Maud Bréjean, le programme délétère du nouveau Front Populaire va mener le pays à sa perte. Bah, dans ce cas-là, bah, s'ils veulent dans un an refaire une dissolution et dire, bah, regardez, les meilleurs, c'est nous, bah, qu'ils laissent la gauche dérouler.
C'est pour ça que je reviens au scénario que moi je crois le plus probable, c'est que le nouveau Front Populaire va gouverner avec les députés ensemble qui s'abstiennent de voter une motion de censure, au moins dans un premier temps. Et qui cassent les couilles avec leurs amendements.
Et t'es pas à l'abri aussi, je l'ai dit la semaine dernière, qu'il y ait quelques députés ensemble qui aillent rejoindre le nouveau Front Populaire.
Ça, c'est possible, je suis d'accord.
Mais oui.
Je vais vous poser la question parce qu'elle se pose. Quid d'une coalition entre Ensemble et le Rassemblement National? L'hypothèse d'un Darmanin qui serait Premier ministre et qui pourrait avoir l'assentiment d'une partie du RN, j'y crois pas, moi.
Non.
Pas après le désistement et tout, je pense que c'est... Après, ils sont capables... Il y en a qui sont capables de tout. Mais peut-être qu'il rêverait, etc. Je pense que c'est quand même difficile.
Et je pense que le RN n'acceptera pas, par exemple.
Le RN serait que c'est. Ils ont quand même construit leur identité sur le rejet du système, etc. Et de la monnaie de Molaison et de. Je sais pas. Même les LR. Les LR qui expliquent encore par la voix de Bruno Retailleau que Darmanin, c'est je sais pas combien de millions d'immigrés en plus. Donc. À un moment donné, je sais bien qu'on n'est pas une contradiction près, mais ça m'étonnerait que ça, juste pour pouvoir empêcher d'avoir, je sais pas moi, Sandrine Rousseau, ministre de l'ESR ou je sais pas quoi, ça me paraît
très
bizarre.
Ça aurait du sens, hein, parce que, enfin, idéologiquement, ça tient.
Non, mais alors, justement, je voudrais répondre à vous deux, parce que moi, d'accord. Je suis d'accord que technocratiquement, parlementairement, voilà, je sais pas comment on dit, d'accord. Ça ne tient pas, c'est-à-dire il y a des postures politiques où jamais Ensemble et le Rassemblement National ne feront quelconque coalition, c'est-à-dire que l'un et l'autre, il y a une tripolarisation de la vie parlementaire, d'accord. Le nouveau Front Populaire, le bloc centriste qui essaye de se reconstruire tant bien que mal avec Ensemble et le Rassemblement National. C'est-à-dire que cette tripolarisation a besoin des trois pour pouvoir vivre. Donc en fait, Ensemble, ils ont besoin d'un bloc en face Rassemblement National pour pouvoir survivre en fait dans les séquences politiques, parce qu'en fait, ça fait depuis 2017 que, eh bien, le carburant, c'est le barrage contre le RN, le Front Républicain, Et ce que tu disais, Léa, sur idéologiquement parlant, c'est pour ça que moi, je suis de l'école qui dit, en fait, on ne sait même pas si un jour le Rassemblement National prendra le pouvoir, parce qu'en fait, il faut prendre conscience que c'est terrible ce qu'on est en train de vivre avec 143 députés Rassemblement National, mais c'est très coûteux pour eux d'avoir échoué aux portes du pouvoir, d'accord? C'est très coûteux pour un parti politique d'échouer aux portes du pouvoir, et peut-être que c'est des choses, voilà, qui vont se mettre en place encore jusqu'à 2027 et encore après. Mais, ça ne veut pas dire que, par contre, un camp centriste radicalisé qui, pour moi, est incarné par Emmanuel Macron, en ce moment, il ressemble quand même à un fou dans son château à prendre des décisions tout seul et à se demander si LFI et le RN, c'est la même chose, d'accord ? Qui, en fait, se radicalise d'un point de vue de l'autoritarisme et du racisme. Et en fait, c'est pour ça que... En fait, il ne faut pas sous-estimer le risque d'une radicalisation raciste d'un bloc centriste, et que c'est aussi ça la grande préoccupation.
Et d'ailleurs, pour ça, il n'y a même pas besoin de créer une coalition de fait. Ils n'ont pas besoin de créer un groupe, ils ont juste besoin de voter les mêmes textes.
De voter les mêmes amendements. Exactement. Comme ils l'ont fait sur le PGL, l'immigration, mais du reste, le RN s'est opposé quand même au budget proposé par les macronistes, c'est quand même opposé au gouvernement, ça a été une exception et ça a été un coup de maître de Marine Le Pen de poursuivre sa dédiabolisation en votant une loi sur l'immigration issue des macronistes. Moi, je crains que les imbroglio à l'Assemblée nationale ne fassent qu'un seul vainqueur, c'est le RN. Parce que ça va être des embrouilles matin, midi et soir. Au JT de 20h, on verra des images de l'hémicycle où ça se déchire en permanence, où il y a des interviews avec des micros tendus.
Ils vont bien s'embrouiller aussi, t'inquiète.
Tu penses ?
Oh bah oui.
Attends, ils ont des leaders hyper identifiés, c'est Bardella, Marine Le Pen candidate, etc. Enfin...
Ouais, mais là, t'as plein de gugus qui débarquent, sortis de nulle part, ça va être un bordel.
Il n'empêche que le petit scénario de copain-copain Macron-RN, il a existé dans la tête de Thierry Soler.
Ouais.
Le conseiller mis en examen plein de fois d'Emmanuel Macron, qui a organisé un dîner, c'est Libération qui a révélé ça aujourd'hui, avec autour de la table Bardella, Le Pen, Marine Le Pen, Édouard Philippe, Sébastien Lecornu.
Ah ouais?
Le dernier de l'enfer.
Je rappelle également, papier d'Ariane Chemin du Monde la semaine dernière, un Gérald Darmanin qui a dit autour de ses proches dans sa circonscription, de toute façon, le Nouveau Front Populaire, ils vont pas gagner, les blédards, ils vont pas aller voter.
Oui, il avait dit ça.
Ouais. Ça commence à puer, les gars. On vous voit, on vous a vu. Voilà.
Ça pue depuis longtemps.
C'est Darmanin, ça sent pas bon le piano.
Et c'est trop marrant parce que dimanche, je suis rentré en taxi chez moi et j'étais avec un chauffeur de taxi qui était fraîchement naturalisé et qui est parti voter aux élections législatives. Et il m'a montré sa carte d'électeur en disant, bah voilà les blédards. Et je l'embrasse, IBS.
J'adore. Mais et qu'est-ce que vous pensez de la possibilité aussi pour le Nouveau Front Populaire et le RN de se retrouver à faire des coalitions cheloues à des moments clés, comme notamment des votes sur des budgets, l'abolition de la réforme des retraites? Alors, on ne sait jamais si le RN est pour ou contre l'abolition de la réforme des retraites. Ça dépend quand est-ce qu'ils prennent la parole et devant quel micro.
Ils ont dit qu'ils le feraient. Ils ont dit qu'ils le feraient.
La réforme des retraites. Du coup, là, il y a peut-être un amendement qui va passer.
La réforme des retraites, c'est pas forcément difficile. Je pense qu'en effet, ils le peuvent et quelque part, c'est pas une coalition, quoi. C'est dire, voilà, le NFP propose ça, le RN dit, bon, j'ai le voté parce qu'on s'est engagé quand même dessus un certain nombre de fois et c'est fait. Après, le budget, je pense que ce sera plus compliqué, effectivement. Le RN n'était pas forcément le plus difficile avec En Marche sur le budget, mais voilà, c'est quand même des gens qu'on fait campagne quasiment en premier, bon, à part évidemment l'immigration, en premier sur la question de cette fameuse audit qui n'a aucun sens des finances publiques. Oui. Donc, ils sont pas en mode, allez, on va te filer de la thune, etc. Là, ils vont être en mode rigueur budgétaire, ce qu'il faut séduire l'électorat de centre-droit qui reste encore à conquérir, quoi. Donc je éventuellement, pour qu'ils puissent éventuellement aller chercher les voix du RN sur certains textes sociaux pour en gros dire au RN, vous voulez vraiment du social, tenez, on vous met au défi, pourquoi pas un vrai genre de truc un peu stable, pas du tout, je crois pas une seule seconde, plutôt que les macronistes, non, ça me semble plus raisonnable.
Qu'est-ce qui nous reste comme option et comme possibilité pour sortir de la crise? L'idée par exemple de passer à un scrutin proportionnel, puisque le scrutin majoritaire n'arrive plus à faire ce pourquoi il a été inventé, empêcher la division de la classe politique et lutter contre l'arrivée du RN à l'Assemblée nationale. Bon, désormais on y est. Donc, est-ce qu'un scrutin proportionnel résoudrait le problème?
Techniquement, pas du tout, parce que c'est en fait la tripartition, c'est pas juste quelque chose d'un petit peu conjoncturel. C'est des poétistes de l'école grenobloise qui ont théorisé ça. C'est un vrai nouvel ordre électoral. Donc, c'est parti pour durer, si on y croit, peut-être au moins une vingtaine d'années, avec des vraies bases sociologiques. Le bloc central, il y a une vraie base sociologique de gens âgés, aisés, etc. pour qui, en gros, la France qui va bien, quoi. Donc, ils n'ont pas de raison de disparaître. Donc, si on fait un scrutin proportionnel, il y aura cet éclatement-là. Voilà. Il n'y aura jamais cet effet de seuil en plus que pourrait permettre sur un malentendu et qui aurait pu faire gagner, pareil, par exemple, le Rassemblement national, s'il n'y avait pas le Front républicain. Donc, ça ne réglera pas les choses. Mais après, la question, c'est que normalement, la proportionnelle, ça amène avec elle un nouveau système partisan, encore plus diversifié que ce qu'on peut connaître, et une culture politique différente. Donc, où c'est pas forcément genre j'ai mon programme, j'ai mon petit bloc avant et on n'en discutera pas. C'est on peut s'arranger, on peut s'entendre, on peut faire des trucs ad hoc, on peut faire comme les Allemands, mettre 3 mois à faire un contrat de gouvernement, mais qui après est solide et peut tenir pendant 4 ans. Donc, ça amène d'autres choses aussi. C'est pas que finalement juste des règles électorales. Et ça, je pense que ça serait quelque chose qu'on pourrait adopter même sans avoir formellement les règles de la proportionnelle.
Léa, l'enjeu principal, c'est le budget qui va être voté à l'automne prochain.
Ou pas d'ailleurs.
Justement.
Mais effectivement, ça va être le moment le plus décisif à court terme.
Sinon, c'est shutdown.
Sinon, c'est shutdown qu'on n'a jamais connu, à ma connaissance.
Après, il y a des mécanismes pour l'éviter.
Oui, voilà. Mais effectivement, donc à la fois le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui sont les deux projets de loi budgétaires qui arrivent généralement à l'Assemblée début octobre, qui sont des projets de loi qui donc du coup sont des propositions du gouvernement et des services techniques de Bercy. Et bien sûr, de tous les arbitrages qui sont faits en interministériel, etc. Donc ça va être un gros morceau. Et il faut qu'il soit voté avant le 31 décembre par l'Assemblée nationale, sachant que, ils peuvent convoquer quand même un 49-3 dessus, plusieurs.
Alors, le 49-3, là, dans la situation, il va être compliqué. Hein, parce que je rappelle que le 49-3, c'est pas une baguette magique, ça déclenche un dépôt de motion de censure.
Et donc là ça va être un moment assez puis en plus après au-delà bien entendu du texte, il y a aussi les personnes qui vont porter le budget. Donc on va avoir un nouveau ou une nouvelle présidente de la commission des finances qui n'est plus du coup Coquerel, parce que Coquerel était dans l'opposition, donc c'est lui qui était président de la commission des finances. Donc là on va avoir une autre personnalité. On va avoir aussi des rapporteurs spéciaux sur le budget qui vont jouer un rôle décisif aussi, et bien entendu le ou la ministre qui va porter ce budget. Donc et aussi le ministre de la santé qui portera le PLFSS. Donc du coup techniquement ça risque d'être je pense que ouais on va bien se marrer. Octobre, il va falloir faire des émissions.
Ça va être un challenge. Pour ceux qui posent la question dans le chat, les mécanismes pour éviter un shutdown, le shutdown, c'est ce qui existe aux États-Unis, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de budget, on ne peut plus payer les fonctionnaires, donc on ferme les services publics. C'est un peu caricatural, mais c'est ce qui se passe pour des services publics fédéraux. En France, il y a des mécanismes pour éviter ça, notamment des principes de reconduction du budget précédent. Par exemple, si vraiment le 31 décembre, on n'y arrive toujours pas, pour éviter de se retrouver le 1er janvier sans autorisation de paiement et autorisation de prélèvement, du coup, il y a des mécanismes de succession. Et puis, à minima, en général, le Parlement a aussi des possibilités d'adopter en urgence un budget minimum qui change rien et qui permet de faire tourner la boutique. Parce que personne ne souhaite que les fonctionnaires soient plus payés. Là, tout le Parlement est d'accord pour ça, même s'ils sont pas foutus de se mettre d'accord sur un budget. Ils sont d'accord au moins pour ça, donc on reconduit, on fait rouler. Et ça satisfait personne, en fait, parce que personne n'est pour...
Mais c'est un moment assez charnière.
Mais c'est un moment assez charnière et c'est assez structurant. Tu as raison de le dire, Léa. Le budget, c'est une loi qui est votée chaque année. Donc, par définition, on vote le budget de l'année suivante. Et c'est la loi la plus importante, puisque un budget, c'est pas juste des textes techniques qui avec des tableurs Excel avec du pognon dedans. Ce sont des textes ultra politiques, puisque un budget, c'est ce qui supporte une politique portée par un gouvernement et qui donne donc des moyens à des pouvoirs publics pour faire des trucs politiquement. Donc, c'est pour ça que le budget est la loi la plus importante de l'année. Et c'est généralement, d'ailleurs, sur le vote du budget qu'on définit si un député est position ou dans la majorité. Si tu votes un budget, c'est que tu soutiens un gouvernement. Si tu votes contre un budget, c'est que tu es dans l'opposition à ce gouvernement.
Après, moi, j'attends de voir aussi les relations avec le Sénat. Je pense qu'on va se marrer là.
Le Sénat ne peut pas bloquer. Hein.
Non, mais on va voir. Hein. Les allers-retours, je pense que ça va être quelque chose.
Ah, sur les lois négociées au mot près à l'Assemblée nationale.
Et les CMP.
Les CMP vont être
rigolos. Le Sénat avait une utilité sous Macron, il est toujours là. Enfin, quand Macron comptait.
Le Sénat est encore là.
Soit parce que c'était le seul endroit où on pouvait un petit peu s'opposer ou faire du bruit, par exemple, durant la commission d'enquête sur Benalla. Soit pour éventuellement faire des genres de pré-négociations avec les Républicains pour préparer après un accord en CMP. Là, c'est vrai que si on est sur quelque chose de l'ordre de une NFP avec un peu d'ensemble dedans, même en gouvernement minoritaire, bon bah ils auront juste à dire non au Sénat et puis voilà, c'est tout.
Je rappelle que le Sénat est à droite à majorité avec le groupe Les Républicains et son allié centriste. Le Sénat n'a pas les moyens d'imposer ses vues à l'Assemblée nationale. En cas de désaccord, c'est l'Assemblée nationale qui garde le dernier mot. Donc voilà, le Sénat était à droite quand la gauche était au pouvoir et ça n'a pas empêché la gauche d'avoir le pouvoir et de gouverner véritablement.
C'est l'année prochaine, les prochaines sénatoriales ?
Non, c'était 2020 les dernières. Non, attends.
Non,
c'est 2023 les dernières.
C'est
tous les 3 ans, donc
ouais,
c'est
okay,
26.
Pour parler filouterie et Sénat, t'as certains sénateurs socialistes, Rachid Temal notamment, qui te disent il faut réunir le nouveau Front populaire de députés et sénateurs parce que dans ce cas, les socialistes sont majoritaires et que du coup, on peut proposer un nom de Premier ministre.
Bien essayé, c'est bien tenté, c'est de la merde, mais voilà, ça dégage. Mais c'est bien essayé, j'aime bien.
Rachid que
non, mais j'aime beaucoup Rachid Temal, je l'avais interviewé sur ma chaîne, mais bref. D'accord. Emmanuel Macron est un homme de coups, il aime bien faire des coups, on l'a vu.
Je t'ai dit, c'est un homme de gauche, j'étais à quoi ?
Emmanuel Macron est un homme de gauche, il l'a promis juré. En 2013. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce qu'Emmanuel Macron nous tenterait pas un petit truc de derrière les fagots, genre un référendum ? Pour bien unir la France, là.
S'il veut, mais sur quel sujet ?
L'antidémocrate a mis sur l'immigration pour qu'on soit nous tous dans la merde, mais alors sur un autre sujet référendum ?
Il avait dit lui-même dans sa campagne en 2022 qu'il voulait avoir recours plus à des référendums. Il trouvait que les référendums, il n'y en avait pas assez en France et qu'il fallait redévelopper une culture
de référendum. Il n'y en a pas fait en 2 ans.
Je sais pas, la fin de vie ? Non, mais la fin de vie, elle va être votée. Enfin, j'espère.
Ben non, c'est pas. Ça se trouve, ça. Mais après, d'ailleurs, tout s'est arrêté. Faut reprendre les textes.
Ils peuvent être votés en l'état. Mais
est-ce qu'il a besoin d'un référendum sur
la France ? Faut les redéposer.
Alors, tiens, il y a quelqu'un qui le dit dans le chat. Du coup, c'est pas moi qui ai dit le gros mot le premier. Et une démission, tiens.
Ah ouais, c'est vrai, on avait imaginé ça. Mais donc, du coup, ça veut dire, imaginons, il démissionne la semaine prochaine. Ouais. On fait quoi, nous?
On voit qu'elle a des étoiles dans les yeux.
Alors, on a entre, on a sur l'article 7 ou 8, je sais plus, 7, je crois, on a entre 20 et 35 jours. Enfin, le conseil constitutionnel a 20 et 35 jours.
J'allais te demander, c'est combien? C'est 35 max?
Il fait 35 max. Il y a même écrit que le conseil consultatif peut reporter, mais jamais au-delà de 35.
Donc, on serait au cœur des JO, ce serait génial.
Ce serait génial.
Ouais.
Je pense que c'est le bon moment.
Les grèves générales, tu vois.
Les grèves générales. Et on rajoute ça.
La CGT, les gens ne peuvent plus aller jusqu'au bureau de vote, c'est
bon. Et je rappelle qu'une démission ne changerait rien au problème. C'est-à-dire qu'on aurait un nouveau président de la République, bravo à lui, qui se retrouverait dans le même problème que Macron. Je fais quoi maintenant? C'est le bordel, cette assemblée. Il pourra pas dissoudre. Ça aussi, il y a des gens qui se demandent, est-ce qu'il y a un reset cooldown sur la dissolution en cas d'élection président de la République, la réponse est non. Il ne peut être.
Je sais pas si tu te souviens, je crois que des gens t'ont posé la question sur ton stream, les gens t'avaient demandé, et on peut le redire ici.
Tu regardes mes streams?
Pas parfois, oui.
Ça me fait plaisir.
Tu sais qu'on est là.
On est là.
C'est vrai que vous êtes là dans le chat et tout, ça fait plaisir.
Peut-être que je suis en anonyme, mais toujours. Et je crois que des gens t'avaient demandé, si ma mémoire est bonne, est-ce que s'il démissionne, il peut se représenter aux élections en 2027? Et je crois qu'ils t'avaient posé la question. Après, moi, juste la réponse que je voudrais apporter, mais c'est très personnel, c'est pas du tout une analyse politique d'une grande intelligence, mais le monsieur aime trop le pouvoir, allô, il a goûté, il veut plus lâcher, monsieur. Hein.
Emmanuel Macron est un président de la République jeune. C'est un homme qui va durer politiquement. Il va essayer de revenir. Tous les anciens présidents de la République ont essayé de revenir. Nicolas Sarkozy a repris les Républicains
sauf
des années
quand
plus
il
tard.
Était mort, mais...
Il a pas... Ouais, alors ceux-là, ils ont
eu du mal à revenir. A moins tenté de revenir.
Entre...
C'est moche ce que tu fais. Là,
il y a Jean-Luc Mélenchon.
Il y a Jean-Luc Mélenchon qui te regarde avec des gros yeux. Là, il est pas content parce que tu t'es moqué de Mitterrand. La réponse c'est non. Emmanuel Macron, s'il démissionne, ne peut pas se représenter immédiatement à l'élection présidentielle qui serait déclenchée immédiatement, parce que la Constitution prévoit bien qu'on ne peut pas faire plus de deux mandats successifs. Le fait qu'il ait démissionné, c'est quand même un mandat, même s'il a été incomplet, c'est quand même un mandat. Il y a eu des théories qui ont été lancées. C'est notamment Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux, qui a imaginé un scénario. Il a fait une interprétation extensive d'une jurisprudence du Conseil d'État sur la présidence de la Nouvelle-Guinée. Comme ils ont autorisé à faire plusieurs mandats successifs à un président, il s'est dit, mais tiens, si on reprend le même dispositif juridique et argumentatif du Conseil d'État et qu'on le transpose sur la Constitution, alors peut-être un président pourrait faire trois mandats successifs.
Il y a trop de temps libre.
Tous les profs de droit constitutionnel qui ont lu ce truc lui ont dit non. Voilà. Non, ça marche pas. Tu peux pas faire deux mandats successifs et un mandat écourté par
une commission. Il y aura un nouveau président du Conseil constitutionnel l'année prochaine, nommé par Emmanuel Macron.
Il y avait pas des discussions sur un nom qui c'était pas Bruno Le Maire?
Ah non.
C'est ce qui a circulé dans la presse.
J'ai fait circuler dans la presse.
Et il y a aussi, au-delà du fait que ça va rien changer et qu'il n'y a pas de dissolution possible, Emmanuel Macron est obsédé encore une fois par sa place dans l'histoire. Il y a les JO qui arrivent. Il y a la réouverture de Notre-Dame en décembre. Le gars va jamais démissionner avant, les gars.
Il va aller à Notre-Dame. C'est sûr, on va avoir un truc en Mondiovision. Il va faire un Tédéum.
Deux coups là qui peut pas le faire.
Il va faire un Tédéum qui est le chant des rois de France à Notre-Dame pour célébrer la victoire. Je te jure qu'il va le faire. Il va faire un Tédéum. J'en suis sûr.
Il va chanter lui-même comme pour Pirouille.
Le Tédéum. Le Tédéum, c'est une musique classique absolument magnifique, d'ailleurs, que tu connais si je te la fais écouter, qui est la musique qui était historiquement, qui était historiquement jouée pour célébrer les victoires des rois de France, et c'est la grandeur de la France qui est célébrée à Notre-Dame. C'est ce genre-là. Donc voilà, c'est ça le Tédéum. Je suis sûr qu'il va le faire, j'en suis convaincu. Je sais plus ce qu'on disait juste avant. Non, je l'ai vu dans le chat, quelqu'un l'a dit, c'est Dupond-Moretti qui serait pressenti pour présider le Conseil constitutionnel.
Ah oui, ça, j'ai lu ça. J'ai lu ça. La suite d'Emmanuel Macron après l'Élysée, ça avait été dit il y a quelques années dans un bouquin, le Conseil européen, ça le hyperait.
Alors, la présidence du Conseil européen, ça a été créé par Nicolas Sarkozy dans le traité de Lisbonne, parce que Nicolas Sarkozy voulait ce poste.
Voilà.
Ils avaient mû Van Ruynbeek la première année pour mettre un clown. Et après, Sarko a été rattrapé par ses affaires, donc il l'a jamais eu. Mais ça, c'est sûr, Emmanuel Macron, président du Conseil européen.
Il par les autres Européens
direct,
aussi.
Bah oui. Il va le vouloir. Il va le vouloir à mort. Il va essayer de le négocier. Il va essayer de faire son possible.
Mais après, tout le monde s'en fout.
Je reviens quand même
c'est
sur
Charles Michel, l'actuel. Mes respects.
Mes respects à Charles Michel, mais on s'en branle un peu. Charles Michel, qui est francophone, j'aimerais bien l'interviewer sur Brexit.
Si tu veux.
Je te remercie, Emilien.
Chacun son truc.
Je te remercie beaucoup, Emilien.
Je t'en prie.